Médias Sorare. Médias Sorare. Le premier podcast francophone dédié à Sorare.
Salut, c'est Mehdi, Magic Mehdi sur Sorare. Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Médias Sorare qui sera principalement dédié à la NBA aujourd'hui. Lors de l'émission précédente, j'ai pu accueillir Hugo, alias Asgard, spécialiste de la Bundesliga allemande. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Bobby, alias Pépite Sorare NBA, créateur de contenu et spécialiste de la NBA. Salut Bobby.
Salut Mehdi.
Très heureux de t'avoir sur le podcast, podcast dédié à Sorare NBA. Ça faisait longtemps, c'était fort demandé. Et à la veille de la reprise du championnat NBA, je pense que tu étais la personne, en tout cas une des deux personnes les plus sollicitées pour participer au podcast.
En effet, ça fait plaisir de retrouver la NBA. Et donc très content de participer à ce podcast pour pouvoir évoquer tous ces sujets-là sur Sorare, sur la reprise de la NBA et puis sur toute la hype autour d'un petit Français qui vient d'arriver.
Oui, un tout petit. Le plus petit joueur.
C'est ça, exactement.
Et je parlais un des deux managers les plus sollicités, l'autre étant Sorare NBA Jet, mais malheureusement, il ne sait pas se libérer quand j'enregistre le podcast, mais il m'a dit que tu pourras parler de son projet. Donc voilà, c'est parfait. Donc tu pourras parler évidemment de toi, de ton expérience, de ce que tu fais sur Sorare, mais également toucher un mot de... Apparemment, c'était un gros projet et moi, j'ai voulu garder la surprise. Donc je ne me suis pas renseigné là-dessus. Comme ça, tu pourras en parler. Alors pour la petite anecdote, tu t'appelles normalement Emmanuel, mais tout le monde t'appelle Bobby, donc... Je vais digresser et je vais t'appeler Bobby pendant tout le podcast.
C'est parfait. Et oui, en effet, on pourra parler de ce qu'on on le résume en Saut Jet, Sorare NBA Jet, qui est un superbe projet. Et donc, je pourrai parler un petit peu à sa place.
Ok, écoute, parfait. Pour la communauté, ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter?
Donc, Emmanuel, aka Bobby, aka Pépite Sorare, donc sur Sorare NBA. 35 ans, fan de NBA depuis 2001. En gros, j'ai commencé mon premier souvenir NBA, c'était Phoenix Chicago finale 92, donc on peut dire que très petit j'ai bercé quand même dans l'univers du basket, et donc joueur Sorare depuis septembre 2021. Ça, on en parlera un peu plus tard de comment je suis arrivé dans Sorare. Pour faire simple, au début j'ai fait des études d'économie, de journalisme, etc. Pendant un petit moment j'ai même été rédacteur sur un site de basket qui est assez bien connu maintenant, qui s'appelle Bibasket, qui traite de l'actualité du basket français. Donc voilà, je suis énormément la NBA, mais pendant un long moment j'ai aussi beaucoup suivi le basket français et européen, ce que je fais moins maintenant. Voilà, en dehors de ça, pour faire simple, j'ai aussi gravité dans le monde du betting, puisque j'ai été parieur sportif professionnel de 2012 à 2017. Donc, pour quand je dis professionnel, c'est tout simplement que c'était mon seul revenu, mon seul gagne-pain pendant de longues années. Et j'ai décidé de, on va dire, utiliser mes talents différemment. Et dorénavant, je travaille dans une grande société, on va dire, qui est en rapport avec la NBA et le betting. Mais voilà, après, je n'en dirai pas plus par rapport à ça, pour des questions tout simplement de tranquillité.
c'est tout à fait appréciable. Ok, donc pendant 5 ans, parieur professionnel et donc spécialisé surtout en NBA, tes débuts là, donc t'avais 13 ans quoi, hein, 2001, c'était à 35 ans, donc c'était à 22 ans. On est tombé amoureux, je pense, plus ou moins au même âge. Moi, je suis plus âgé que toi, mais moi, c'était à 13-14 ans aussi, lorsqu'il y a eu l'Expansion Team des Magic. Et c'était en 1999. J'avais 12 ans, voilà, j'avais 12
D'accord.
ans.
Ah ouais, c'est encore plus vieux, mais ouais, c'est en fait quand j'étais jeune, j'étais fan de foot, et puis à un moment j'ai commencé un petit peu à me lasser et je me suis tourné vers un autre sport, donc j'ai commencé à faire du basket par moi-même et je me suis dit c'est vrai que sur Canal+ ils diffusent le basket, la voix mythique de Georges Eddy, et j'ai commencé tout simplement énormément apprécier. En plus, c'est un peu bizarre de dire ça maintenant, mais à l'époque le basket c'était rare, c'était voir un match NBA, c'était un événement, regarder le vendredi dans la nuit ou le dimanche soir les matchs, c'était un vrai événement, et donc ça a rajouté un côté assez exceptionnel quand on voyait ces athlètes incroyables. Et donc voilà, je suis tombé amoureux, et étonnamment, ça peut paraître un peu bizarre, mais je suis tombé fan des Atlanta Hawks, alors que pourtant c'était une franchise absolument catastrophique dans les années 2000, mais j'ai toujours aimé les petites équipes, un peu les underdogs, et donc je me suis tombé amoureux de cette équipe là et j'en suis toujours fan actuellement.
Ok, mais je partage un peu ta peine, hein, parce que moi aussi j'aime bien les équipes underdog. Bon, et ouais, c'est gay, c'est génial, mais voilà. Bon, au moins, on a l'avantage que quand ça gagne, on est vraiment très très content, quoi. On s'en lasse pas.
Ouais, c'est ça, exactement. C'est tellement rare qu'on apprécie.
Voilà, c'est ça. Et Georges Eddy, bah ouais, sa voix aussi m'a bercé, m'a vraiment fait aimer le basket. Il fait partie de ces journalistes qui arrivent à transmettre leur passion,
ouais,
et leur amour du sport. Et ouais, je pense qu'on est énormément, en fait, dans ce cas-là, à suivre, enfin, à aimer la NBA grâce en partie à lui. Moi, je le suivais quand il était encore sur, je crois, sur Eurosport, tu vois, avant le passage sur.
Ouais, je me demandais s'il n'avait pas démarré sur France 2, je crois, ou quelque chose comme ça.
Ouais, c'est possible. Moi, il n'y avait pas encore Internet, tu vois. Donc, moi, il y avait même des matchs, j'écoutais sur la radio, tu vois. Je captais la radio américaine, parce qu'on a une base américaine pas très, très loin de Bruxelles, à Mons. Et en fait, j'arrivais à capter en FM la chaîne, et j'écoutais les matchs, parce que voilà, à cette époque-là, oui, à part Canal+ une fois de temps en temps, comme tu dis, le samedi soir ou la nuit, le reste c'était via la radio. Donc le monde a bien changé depuis lors avec le NBA Pass. D'ailleurs, tu l'as pris, le NBA Pass?
Je l'ai depuis ses débuts, depuis je crois 2008. J'ai toujours eu le NBA League Pass, qui a bien évolué depuis. Et justement, par rapport à ça, c'est aussi assez drôle, parce qu'au début, donc quand j'ai commencé à vraiment être fan, j'essayais d'avoir un maximum de vidéos NBA, c'était très compliqué. Donc c'est vrai que je suis devenu un as du piratage et des sites illégaux pendant très longtemps, avant de finalement basculer sur la solution légale, parce que quand même, tout simplement, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique pour pouvoir regarder les matchs directement sur l'ordinateur ou sur la télé. Avant, c'était quand même très très compliqué. Je me rappelle d'avoir regardé un match de playoff avec Tracy McGrady en 2006, en commentaire chinois, vraiment avec des pixels partout. Et pourtant, j'avais adoré. Mais comme quoi, le monde a bien changé, en effet.
Tout à fait. Alors, pour terminer, tes passions. Parce que je vais, comme je t'ai dit, je vais pas creuser le sujet sur ce que tu fais. Enfin, tu l'as bien exprimé. Mais est-ce qu'on peut connaître tes passions et tes origines, où tu vis actuellement?
Alors, à la base, je suis originaire de l'ouest de la France. Et maintenant, je vis en région parisienne, pour le travail, justement. Et moi, j'ai toujours été un fan absolu de sport. Merci, maman, par rapport à ça, puisque très jeune elle m'a, non mais c'est vrai, honnêtement, très jeune elle m'a initié au fait d'aimer le sport, d'en pratiquer, d'en regarder. Et c'est vrai que ça a été une des premières abonnées de Canal+, et donc je me rappelle de mes mercredis après-midi où j'allais au sport, puis ensuite je rentrais, les petites crêpes de maman devant la NFL, la NBA, le football, etc. Sur Canal, ça berce, on va dire. Et donc voilà, j'ai été fan de foot, je le suis toujours un peu, même si on va dire c'est pas le sport qui m'émerveille le plus actuellement. Il y a des choses qui me plaisent pas trop dans l'univers du foot, surtout quand on connaît un peu les bas-fonds et les dessous. Mais pour le reste, moi j'ai toujours été un gros gros fan de sport américain. Je suis un oiseau de nuit depuis très longtemps, donc j'ai vraiment l'habitude de regarder du sport la nuit. Donc que ce soit la NBA, aussi la NFL, où je suis un énorme fan. Je regarde énormément de football américain. Voilà. Et ma deuxième grande passion, clairement, c'est les voyages. Je passe ma vie à bouger, ce qui est pas toujours compatible avec le fait de pouvoir suivre parfaitement une saison NBA. Mais c'est vrai que là, justement, par rapport à ça, je pars au tout début de la saison NBA. C'était pas prévu, mais j'ai eu une belle opportunité pour partir dans un voyage en Afrique, et je pars pendant une petite dizaine de jours. Donc voilà, on part avec ma compagne à peu près tous les deux mois, que ce soit des petits endroits en France ou à l'étranger. On essaye toujours d'avoir la bougeotte, parce que la vie est courte et le monde est grand.
Oui, c'est bien résumé, c'est bien résumé.
C'est ça.
Bon, on va attaquer un peu Sorare. Ouais, non, quand même, je veux quand même un peu rebondir sur ce que tu dis. Des matchs NBA sur place, t'en as certainement vu, je pense, pas mal.
Eh ben, étonnamment, pas du tout. Et c'est...
Quoi, jamais?
Alors, j'ai vu le NBA Paris Game de l'année dernière, et c'était mon premier match NBA. Et en fait, je t'explique tout simplement pourquoi. C'est que j'ai jamais eu ni le temps, ni l'occasion de partir aux États-Unis, même si c'est un truc que j'ai très envie de faire depuis très longtemps. Mais je sais pas, je suis toujours parti en Asie, en Europe, en Afrique, mais j'ai jamais traversé l'Atlantique. J'ai jamais été ni en Amérique du Nord ni en Amérique du Sud. Voilà, c'est les aléas de la vie. J'ai eu plusieurs fois la possibilité, finalement j'y suis pas allé, mais je pense que ça va vite se rattraper dans les dans les prochaines années, c'est un de nos gros projets avec ma compagne de partir découvrir le Canada, les États-Unis, le Brésil, etc. Donc on va se rattraper, mais c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion, donc c'est assez étonnant. Mais fait, finalement, la NBA, je l'ai toujours regardé à travers le prisme de la télévision.
Ouais, mais bon, t'avais quand même un peu l'ambiance l'année passée au NBA game à Paris, où c'était l'ambiance était quand même. Je vais pas dire l'ambiance, les animations sont tip top, celles qu'on retrouve dans les salles aux États-Unis. Après, l'ambiance, le public, bah oui, il est différent forcément, puisque c'est un public français, c'est pas un public américain. Et comment tu as trouvé l'ambiance, justement, et les animations, etc.
Alors, j'en attendais pas moins en termes d'animation, avec les cheerleaders, les spectacles, etc. Un peu déçu, en effet, de l'ambiance, pas aidé non plus par le spectacle proposé par les deux équipes qui ont pas, on va dire, enflammé le public, puisque je rappelle, je crois, Chicago a gagné en menant toujours à peu près de 15 points. Il y a jamais eu un moment où on a pu s'enflammer. En plus de ça, on avait un Français, Killian Hayes, qui a été malheureusement catastrophique sur ce match-là, ouais. Donc pareil, ça n'a pas aidé. Et puis bon, c'est un public de spectateurs qui a envie de découvrir mais pas de supporter, donc on est clairement très très loin de la folie parfois qui peut s'emparer des arènes NBA quand l'équipe à domicile fait un gros match, quoi.
Ouais, je pense que si on avait eu une affiche un peu plus alléchante, alors au niveau du naming, Chicago Bulls, Detroit Pistons, c'est deux très très grosses franchises, mais c'est vrai que leur niveau de jeu, on va dire ça comme ça depuis quelques années, c'est pas top top, hein. Même Chicago, ouais. Ils ont quand même un peu de mal et... Bref, on aura le temps de revenir. C'est un gros challenge là pour moi, ce podcast, parce que je vais devoir me mettre à ton niveau, que j'arriverai pas à récupérer. Ça, c'est clair et net, parce que la NBA, c'est mon sport préféré. Je vais dire ça comme ça, le basket. Mais quand je regarde, c'est des highlights, c'est des trucs comme ça. De temps en temps, je regarde des résumés d'Orlando Magic ou d'un gros match. Mais tu vois, sur YouTube, qui dure maximum 10 minutes, tu vois.
Ouais.
Mais des matchs en live, à part les playoffs, je me rappelle plus. Enfin voilà, je suis plus trop. Donc on a, heureusement que t'es là comme expert, et n'hésite pas à me récupérer si je dis des bêtises. Bon.
Ouais. Pas de
soucis. J'ai posé le cadre. Alors, Sora, explique-moi un peu comment tu l'as connu, à quel moment, et je présume que c'était à l'époque où il n'y avait que le foot.
C'est ça, il n'y avait que le foot, et j'ai connu ça tout simplement parce que j'ai suivi Déglingo MPG, que je crois que tu as déjà invité dans ton podcast, si je ne me trompe pas. Et donc, je suivais tout simplement ses vidéos sur YouTube, où il parlait énormément de stratégie sur MPG, etc. Donc, ça m'intéressait pour pouvoir battre tout simplement mes amis et mes collègues. Voilà. J'essayais d'optimiser ma stratégie. Et puis il a commencé à parler de Sorare en parlant un petit peu de cet univers. Alors moi, je commençais un tout petit peu à mettre mes billes dans les cryptos. Et puis je commençais à me dire, ça peut être intéressant. Alors comme je disais, le foot, c'est pas obligatoirement là où je suis le plus fort. Mais j'ai un truc que j'apprécie énormément, c'est de dénicher des pépites. C'est bien pour ça que je m'appelle Pépite Sorare. C'est-à-dire en gros, aller chercher des joueurs un petit peu jeunes qui n'ont pas encore explosé, ou des joueurs un petit peu sous-valorisés, ou qui reviennent de blessures, ou ce genre de choses. J'aime bien aller un peu dans les tréfonds pour chercher tout ça. Je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant, je peux peut-être acheter des cartes, et puis finalement réussir à trouver des joueurs que personne n'a trouvé, pour ensuite tout simplement pouvoir faire un petit peu d'achat-revente, un peu de profit, mais également peut-être pouvoir aligner des équipes un peu fun, un peu sexy, etc. Et j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, mais j'ai quand même mis presque 6 mois avant de passer le cap, pour plein de raisons, parce que c'était déjà pas très accessible à l'époque, Sorare, hein. C'est quand même, faut se rappeler, je crois que t'as démarré en 2019, donc encore plus vieux.
Début 2021.
Ah, excuse-moi, je pensais que c'était un peu plus tôt. Mais on va dire que tu le sais très bien, c'était quand même quelque chose d'assez complexe. Le fait de devoir déposer des éthers, de comprendre la mécanique du jeu, d'acheter ses premières cartes, savoir comment gérer tout ça. Donc ça a mis un peu de temps. Et au final, je me suis lancé dans l'aventure, définitivement en septembre 2021, avec plus ou moins de réussite, on va dire.
Ouais, malgré tout. Écoute, tu vas nous expliquer tout ça. Donc tu t'es inscrit, je le vois là sur SD le 1er septembre 2021, donc c'est à ce moment-là qu'ils allaient bientôt, non, c'était sorti les...
Et c'est les Limited, au moment où les Limited sortent, j'ai passé le pas, en fait, c'est exactement
okay,
là.
Ok, et le prix était fort élevé quand même avant, parce qu'on a eu les explosions là au niveau de, c'était mars, et puis la deuxième, avec la deuxième levée de fonds là, où les prix étaient quand même fort élevés. Donc les Limited pour toi, c'était le bon moment, point d'entrée. Alors, avant que tu commentes, t'expliques la stratégie du début, de tes débuts dans Sorare, je vais vite présenter ta galerie. Donc, tu as beaucoup de cartes. Tu as 328 cartes limited, 50 cartes rares. Alors les 50 cartes rares, corrige-moi si je me trompe, mais ce sont que... Ah non, je vois qu'il y a Elfrin Alvarez. Il y a Elfrin Alvarez, bah, l'ancienne pépite là, qui commence à prendre un tout petit peu d'âge, mais qui reste toujours jeune. Tous les autres, ce sont des joueurs NBA. Et énormément de cartes donc limited où tu as également du foot. Ta galerie vaut un peu plus, même si c'est anecdotique, hein, un peu plus de 2,6 Ether. Reward winning lineup d'un peu moins de 10%. Bah voilà, là, ça c'est la présentation. Maintenant, explique-nous un peu tes débuts à partir de septembre 2021.
Ouais, alors, donc en effet, j'ai pas non plus une galerie exceptionnelle par rapport à d'autres que tu as pu inviter, qui tapent les 5, les 10 ETH, etc. Moi, je suis rentré avec un petit budget dans l'idée de découvrir, de m'amuser. Donc, je crois que j'ai dû déposer quelque chose comme 500 euros pour commencer en limited. Et voilà, j'ai commencé à acheter mes premières cartes avec, comme j'ai dit, plus ou moins de réussite. Le problème, je pense aussi, c'est le problème de beaucoup de managers sur Sorare parfois. Ça peut être le manque de connaissances. On achète des cartes de certains joueurs ou voilà dans certaines équipes, mais finalement on comprend pas trop les rotations, on sait pas trop quel va être leur rôle, etc. Et donc je me suis retrouvé avec des cartes un petit peu immobilisées parce que finalement les joueurs revenaient de blessure mais n'étaient plus dans les plans d'entraîneur, ne jouaient pas. Des jeunes que je pensais qui allaient exploser mais finalement qui ne jouaient pas ou qui n'étaient absolument pas performants. Donc vraiment pas mal d'erreurs en plus. Même si les limited étaient un bon point d'entrée, ça a quand même assez vite monté en termes de tarifs. Donc je me suis retrouvé un petit peu à acheter des cartes très chères et au fur et à mesure les prix ont fini par un petit peu baisser avec la supply un petit peu énorme. Donc en effet j'ai dû plusieurs fois on va dire réorienter, revendre quasiment l'intégralité de ma galerie, recommencer à zéro. Je suis pas le meilleur exemple de création de galerie Sorare parce que voilà au départ j'ai testé pas mal de choses, j'ai tâtonné et le vrai changement, le changement radical, c'est quand la NBA est arrivée puisque là je savais que j'avais on va dire un avantage presque concurrentiel sur pas mal de gens parce que je me vante pas du tout mais je pense que j'avais une vraie connaissance bien approfondie quand même de la NBA et donc je pouvais anticiper par exemple l'émergence de certains joueurs, le fait que certains joueurs soient relégués dans la rotation, ce genre de choses, et donc ça m'a aidé assez rapidement à me créer une galerie assez intéressante et tout simplement en plus ça on en parlera peut-être un petit peu plus tard mais grâce on va dire à la stratégie de Sorare qui fait que les petites cartes avaient énormément de valeur, pouvoir très facilement faire de la rotation sur ma galerie, revendre des cartes, les acheter, etc. Et donc j'ai décidé cet été de monter un petit peu en rare. Mais voilà, une galerie pas parfaite, mais intéressante à mes yeux, avec on va dire globalement 75% de la valorisation qui est sur la NBA. Hein.
Ouais. Et tes débuts, donc, quand tu as commencé le foot, c'était quoi ? Tu étais focalisé SO5 achat-revente, tu te tâtonnais, tu savais pas trop bien parce que tu dis ouais j'ai changé pas mal de fois de stratégie.
Alors au début j'étais plutôt axé achat-revente et je le suis toujours, je m'en suis jamais caché sur le fait que lié aussi à ma stratégie, le fait de prendre des joueurs qui ont peu de temps de jeu finalement qui peuvent exploser, ça implique souvent que soit je peux les utiliser quand ça y est ils commencent réellement à revenir ou à émerger, soit je peux les vendre et voilà, moi souvent je les revendais pour pouvoir derrière me racheter parfois une, deux, trois cartes finalement de joueurs qui m'intéressaient mais qui ne jouaient pas. Donc ce qui fait que j'ai très souvent pas privilégié le SO5. J'ai même eu aussi ce cas-là l'année dernière en NBA où je pense que plusieurs fois j'aurais pu aligner des line-up extrêmement compétitives, mais le fait que les prix augmentaient de manière exponentielle sur certains joueurs à arriver à la deadline fait que je prenais souvent la décision quand même de les vendre parce que tu le sais aussi bien que moi, les prix montent des fois dans des stratosphères incroyables pour redescendre deux minutes après le début de la deadline. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué finalement, enfin c'est un choix à faire, mais est-ce que ça vaut le coup d'aligner une line-up où t'es pas sûr de gagner on va dire une grosse reward comparé à ce que tu peux encaisser finalement sur la vente d'un joueur. Donc voilà, chacun sa stratégie, mais c'est vrai que je suis plus parti sur l'achat-revente globalement depuis le début de mon aventure Sorare.
Ok, et donc là t'as construit ton pool rare, l'objectif c'est quoi? C'est d'être compétitif en rare contender et en rare champion?
Je dirais plutôt rare contender parce que j'ai pas vraiment de gros MVP en rare.
Ouais.
Je dois avoir du Paul George, du Markkanen, etc. Mais c'est absolument pas suffisant.
Du Morant, mais bon, il faudra attendre.
Voilà, voilà. Donc en effet, avec ça, ça va être un peu complexe. Mais j'ai surtout pris beaucoup de joueurs, on va dire backup, qui peuvent émerger à partir de la moindre blessure du titulaire en NBA. Et donc en fait, tout simplement, je vais profiter des opportunités pour pouvoir aligner. Surtout, ce qui est bien, c'est que cette année, et ça on en parlera, Sorare a mis en place aussi l'Underdog, donc c'est une compétition, on va dire, où les petites cartes avec des tout petits L10 auront, on va dire, beaucoup d'intérêt. Donc je pense que je pourrais aligner assez régulièrement dans ces deux compétitions, et ce sera clairement ma priorité, puisque la Champion me paraît inabordable, en rare en tout cas.
Ouais. Et ta stratégie donc future, c'est quoi? C'est donc d'être compétitif là-dedans, et puis de vendre ces cartes-là, si jamais, par exemple, le backup devient titulaire pour l'une ou l'autre raison, ou bien non de les utiliser en SO5.
Comme toujours, ça va dépendre de la montée des prix, de comment ça se passe. Souvent, ce que j'essaye de faire, c'est que je me fixe, on va dire, un prix en me disant, s'il atteint ce prix-là, je prends la décision de le vendre. S'il atteint pas ce prix-là, je prends la décision de le conserver et de jouer avec, en sachant, comme je l'ai déjà dit, que souvent, quand on arrive à vendre bien une carte, on a aussi la possibilité de pouvoir en racheter plusieurs derrière. Donc ça permet de faire grossir tout simplement le pool de cartes. Avec une seule carte revendue, je peux en acheter deux ou trois, et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est vraiment de... Parce que de toute façon, on le sait très bien sur la NBA, ce qu'il faut, c'est avoir un pool de cartes très large pour pouvoir couvrir énormément de situations, pour essayer d'avoir les line-up les plus optimales. Donc l'idée, ça va être, j'espère, avec ma contender sur quelques occasions, à réussir à récupérer des rewards, et si possible, ce qui serait génial, c'est d'avoir un MVP. Mais si je ne l'ai pas, l'objectif, ça va être quand les prix vont commencer à se tasser vers la fin de l'année, puisqu'il y aura de moins en moins de matchs, de moins en moins d'utilisateurs et qui vont pouvoir jouer, tout simplement. À ce moment-là, quand on va être dans le creux de la vague, peut-être, comme je l'ai fait là, refaire des emplettes pour le début de la saison prochaine, où cette fois-ci je vais monter, à mon avis, en gamme, en essayant d'aller chercher des champions enfin des vrais MVP en rare, et peut-être essayer de commencer une galerie en super rare contender. C'est un objectif, voilà. Globalement, je ressens de toute façon ma galerie vers la NBA. J'ai encore quelques cartes en foot, quelques-unes, mais beaucoup de limited qui valent très peu. Voilà, l'idée, c'est de vraiment être focus sur la NBA.
Ok, et donc pourquoi pas aller en super rare au moment opportun. Tu parlais, voilà, de marché, etc. Enfin, c'est pas pour être péjoratif, mais tu discutais comme si les prix allaient être stables, alors que ça, on connaît les secousses ces derniers mois, je veux dire même année, plus d'un an. Quel est ton ressenti par rapport au marché NBA, marché des cartes? Parce que là, j'ai vu quand même, suite à l'annonce de Sorare de changer le print, enfin changer la rareté, donc l'édition, au lieu de 1000 rares passe à 100, et etc. pour les super rares qui passent de 100 à 10. Là, il y a eu un petit pump, et puis quand ils ont annoncé la nouvelle mouture avec le nombre de, entre guillemets, de places gagnantes, etc., il y a eu quelques tweets, quelques messageries qui ont été postées en disant, ouais, mais là on se prend des moins 70, moins 80, moins 90% de reward en moins. Et là, j'ai vu quand même les prix aussi ont pas mal flanché. Quel est ton avis par rapport à ça?
Alors, on en parlait pas mal sur le Discord qu'on a fait avec les copains qui suivent, qui sont sur Sorare NBA. Et on pense que ça reste quand même une année de consolidation de la part de Sorare NBA. Je pense qu'ils ont visé un peu trop gros, un peu trop au début, surtout avec un marketing un peu léger finalement, parce qu'il y a eu quand même assez peu de publicité sur le territoire américain, ou même à la télé, etc. Donc pour attirer des nouveaux utilisateurs, c'était assez compliqué, je pense. Et donc le fait d'avoir 10 000 limited, 1000 rares, etc., je pense que c'était clairement surdimensionné par rapport à leur base d'utilisateurs. Donc ça me paraît logique d'être revenu là-dessus, mais c'est vrai que ça implique derrière que il y a beaucoup beaucoup moins de rewards à gagner. Et je pense que c'est vrai que moi, qui ai essayé de commencer à monter en rare, je me retrouve un petit peu, j'allais dire, bloqué, parce qu'au final, là, sur les compétitions rares, comme je vois, je crois que c'est dans le champion, je crois qu'il y a 90 rewards seulement à gagner pour ceux qui font leur line-up. Donc, en gros, faut être dans le top 2, top 3% chaque week-end. Ce qui me fait un petit peu peur, ça va être le côté, je pense qu'il y aura de la hype au début, les gens ont envie d'acheter des cartes, etc., ont envie de jouer. J'espère que le découragement sera pas trop élevé quand, au bout de quelques game week, quelqu'un qui aura fini centième se rendra compte qu'il a pas gagné de cartes, alors alors que pourtant il a fait une super performance et qu'il a fini dans le top 4%. Et c'est un peu ça qui m'inquiète par contre. Mais voilà, après, je pense que Sorare a un super produit entre les mains, mais pour le moment, je pense qu'il est sous-exploité de leur part. Je reste persuadé que de toute façon, au niveau des prix, c'est du classique, c'est-à-dire que comme un petit peu au foot, en début de saison, ça monte énormément. Il y a un petit peu de hype, on va dire, jusqu'au mois de décembre globalement, parce qu'il y a énormément de matchs, ça enchaîne. Et puis après, les gens commencent à se dire, tiens, la saison NBA arrive bientôt à la fin, il reste plus que 2 mois. Et là, les prix commencent à baisser tout simplement. C'est un marché extrêmement cyclique, sûrement comme le foot, mais, ouais. Mais voilà, ça me paraît logique, il n'y a pas de révolution à ce niveau-là.
Mmh. Ouais, sauf évidemment le nombre de places gagnantes qui change drastiquement. Moi, je t'avoue que j'avais quitté le basket, donc ce rare NBA, je crois que c'était au mois de mars, par manque de temps. C'était quand le NBA Game Paris, au mois de février, hein,
ouais, c'est ça, au mois de février.
Ouais, ben ouais, je crois qu'un mois.
Fin janvier, je crois.
Ouais, un mois plus tard, je lâchais parce que ça demande énormément de temps, parce que encore même plus de temps que le foot, parce que il faut toujours des adaptations, il faut beaucoup prévoir à l'avance aussi par rapport au nombre de matchs qu'il y a par game week. Un joueur qui score bien, sa moyenne augmente, donc tu dois aller chercher d'autres joueurs si t'as pas, comme tu as dit très justement tout à l'heure, un très large pool de joueurs, et ça plus le foot, c'était tout simplement trop. Mais là, j'ai racheté quelques cartes, des cartes rares, je crois que j'en ai acheté une dizaine, pas des MVP, mais voilà, de quoi vibrer de temps en temps, donc parce que c'est quand même très chouette aussi. Et comme toi, je suis assez confiant aussi dans leur produit, mais qui est sous-évalué, sous-estimé. Je sais pas si t'as vu le message assez long qu'avait posté Spicer sur X dernièrement.
Ouais, si, j'ai vu ce qu'il avait posté. Mais oui, il a raison sur le constat qu'il fait. Je pense qu'on est beaucoup à dire que on a du mal à comprendre peut-être la stratégie, ou en tout cas où va Sorare, et en plus ça n'aide pas parce que leur communication n'est pas obligatoirement parfaite ces derniers temps, donc les utilisateurs qui sont là depuis quelques années sont parfois un peu décontenancés, un peu perdus et voilà, aussi un peu déçus, parce qu'au final, si on regarde le gameplay NBA de cette année, on va dire ils ont donné un petit peu ce que les joueurs attendaient, mais on va dire pas grand chose de plus, c'est-à-dire une meilleure gestion de la supply en diminuant pour éviter d'avoir des crashs de prix absolument catastrophiques comme l'année dernière, une compétition supplémentaire qui sera là tout le temps, qui est la Underdog, qui avait beaucoup plu aux gens, mais au final c'est pas grand chose de plus, c'était assez simple à mettre en place, et derrière on n'a pas non plus grand chose de plus. Si on regarde bien, le gameplay est le même, ils sont repartis sur une nouvelle un nouveau système pour les commons qui est exactement le même que la saison précédente. On se pose presque la question, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 5 mois? c'est dommage, parce que franchement, comme je disais, ils ont tout, et hier j'en parlais justement sur le Discord en disant que il faut qu'ils fassent attention, même s'ils ont un contrat avec la NBA pour longtemps, parce que du côté américain, les grosses sociétés de fantasy style FanDuel, etc., elles vont à 2000 à l'heure, et il faut pas, s'ils veulent vraiment se développer, le marché américain pourra être très vite saturé, donc il va falloir quand même qu'ils accélèrent sur le sujet s'ils veulent amener des nouveaux utilisateurs.
Ouais, et garder leur contrat, tu te rappelles, c'est 5 ans, un contrat de 5 ans qu'ils ont signé?
Alors on n'a pas les détails, mais il semblerait que ce soit 5 ans.
Ok, écoute, normalement c'était le sujet d'actualité, mais on peut commencer par ça, et puis on attaquera vraiment la NBA ensuite. Donc il y avait ça, ouais, qui pose problème. Ils disaient 5 mois, la fin d'année là, moi je me rappelle qu'il y avait beaucoup de messages de déçus par rapport au merchandising, par rapport au système des playoffs, au nombre de rewards de playoffs.
Ouais, en fait le merchandising qu'ils ont mis en place est assez incompréhensible, dans le sens où ils nous annoncent 100 000 euros de lot. Donc aucun souci par rapport à ça, mais on se retrouve avec du merchandising estampillé Sorare et non pas du merchandising officiel NBA. Je pense que les gens auraient beaucoup mieux réagi si tout simplement le vainqueur avait gagné des maillots dédicacés, voilà, des choses comme ça. Au final, on se retrouve avec des casquettes Sorare un peu cheap, made in China, et il y a, franchement, c'est pas je pense que Sorare peut faire bien mieux que ça. Je veux dire, ils ont un partenariat avec la NBA, il y avait quand même moyen, même ne serait-ce que par exemple avoir une carte pour pouvoir dépenser de l'argent sur le NBA Store officiel. Ouais. Je pense que c'est plus pertinent pour les gens qui peuvent peuvent s'acheter tout simplement le maillot de leur joueur préféré ou ce genre de choses, que d'avoir par exemple un sac à dos ou une casquette Sorare. Voilà, c'est très sympathique, mais je trouve que c'était démesuré entre l'annonce des lots et la réalité de ce que les gens ont reçu. Ça, encore une fois, c'est les gens ont été déçus, et pour les playoffs, très clairement, le gameplay, et ça c'est aussi inhérent aux playoffs, fait que c'était lent. Et pas très intéressant, puisque en gros, on va dire globalement, chaque série de playoffs, il y avait une ou deux game week si on schématise. Par exemple, sur les finales, il n'y avait qu'une seule game week pour jouer. Donc tous les matchs des finales, en fait, étaient réunis sur une seule game week. Donc c'était un peu... En fait, les gens faisaient leur line-up et puis ils patientaient gentiment 10-15 jours en attendant de voir ce que ça avait donné, sans spécialement trop vibrer. En tout cas, j'ai l'impression que, je suis pas le seul, hein, tous les créateurs de contenu NBA Sorare ont clairement diminué leur intérêt à ce moment-là. Il y avait beaucoup moins de tweets, d'interactions avec les gens pendant les playoffs, alors que pourtant, on est d'accord que c'est censé être le moment incroyable, charnière, où est-ce que les gens... Moi, j'ai vibré devant les playoffs, mais pas devant Sorare NBA Playoffs. Voilà, c'est un peu dommage.
Ouais, c'est un bon résultat. Une bonne conclusion. Il y a encore d'autres choses que tu dis, ça serait bien qu'ils fassent ceci, qu'ils seraient bien qu'ils fassent cela, ils auraient pu faire ceci autrement. Le lancement des cartes, là, tu parlais tout à l'heure de qu'il y avait des concurrents, des autres jeux de fantasy. Moi, ce que j'étais assez étonné hier, je crois que c'est hier qu'ils ont envoyé un mail pour dire qu'il y avait le lancement des nouvelles cartes, etc. Et je reçois également un mail, mais à 10 minutes d'intervalle de la NBA, parce que je suis abonné à leur newsletter qui annonce un fantasy game. Et je me suis dit, waouh, génial, la NBA qui envoie un mail à tous ses abonnés pour annoncer Sorare. Et en fait, non, c'était leur propre jeu de fantasy, et il y avait des sortes de cartes, en fait, où t'avais les joueurs NBA. Et c'est pour ça que j'ai regardé, c'est que je me suis dit, ah, mais c'est pas des cartes Sorare, c'est des autres sortes de cartes. À mon avis, ça fonctionne peut-être pas avec des cartes, mais en tout cas, je trouvais la communication très très bizarre, quoi, à 10 minutes d'intervalle avec la communication officielle de Sorare qui annonce le lancement des nouvelles cartes.
Ouais, et puis on a l'impression, entre guillemets, que, on va dire, Sorare a obtenu l'exclusivité de la NBA, mais que clairement la NBA, elle, c'est pas spécialement un produit sur lequel j'ai pas l'impression qu'elle pousse énormément pour le développement. Sorare, je pense qu'ils ont envie de développer des choses, mais eux, c'est un partenariat comme un autre qui permet, on va dire, de gratter quelques millions. Et c'est ça aussi qui m'inquiète un peu, parce que, comme je disais, la NBA, c'est une énorme machine, et si, entre guillemets, après ils arrivent à développer un jeu de fantasy interne et à l'internaliser et à plus dépenser, entre guillemets, à récupérer encore plus d'argent, ça peut être tout à leur avantage. Et puis, comme je disais, il y a aussi des sociétés aux États-Unis qui sont implantées très fortement là-bas, et où tous les Américains sont dessus, surtout pour les jeux de fantasy football américain. Je ne serais pas étonné que ça se bataille très très fort à la fin du contrat de Sorare NBA pour récupérer, surtout si les NFT reviennent un petit peu en tendance. Parce que là aussi, ce qu'il faut aussi noter, c'est qu'on est dans un creux actuellement, que ce soit dans les cryptos, dans les NFT. Donc c'est aussi normal que ça a un petit peu de mal à décoller et que ça attire pas des tonnes de gens. Mais voilà, je pense qu'il y a mieux à faire, et il va quand même falloir, je trouve, qu'ils mettent un petit peu les bouchées doubles en termes de dynamisme, de communication, d'interaction, etc. Pour que ça prenne vraiment forme, parce que je trouve pour le moment que il y a mieux à faire.
Moi, je pense qu'au niveau de la NBA, la stratégie est bonne pour internationaliser et encore plus, renforcer l'image de la NBA dans le monde. Mais est-ce qu'on peut dire que Sorare NBA a principalement attiré des Européens et pas le public avide fantasy américain?
Ouais, clairement. On n'a pas les stats, mais je pense qu'on le ressent. Je crois que même sur le Discord officiel de Sorare NBA, on se rend compte qu'il y a quand même énormément de francophones. Bon, c'est normal, ça reste quand même une boîte française et un jeu, on va dire, français à la base, donc c'est normal que ça ait plus touché le public français, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment une vague massive de joueurs américains qui soient venus en se disant c'est le nouveau fantasy game à la mode auquel il faut que je joue absolument, quoi. Parce que je pense que vraiment pour eux, aux États-Unis, ils le voient comme un jeu de fantasy, pas comme un investissement, mais comme un jeu de fantasy. Ouais. Et c'est ça qu'il faut qu'ils arrivent à développer, en fait, parce que pour avoir des nouveaux utilisateurs, parce que nous, on est là pour beaucoup depuis un petit moment, même pour ceux qui sont arrivés, il y a beaucoup de personnes personnes qui, enfin quelques personnes plutôt, qui le voient comme un jeu, mais il y a encore beaucoup trop de gens, et moi aussi le premier, hein, qui le voient comme un investissement. Et donc tant qu'ils arriveront pas à faire passer cette barrière là, il y aura pas un onboarding massif, je pense, sur la NBA.
Ouais, surtout que les Américains, c'était les premiers à être super hypés par la hype NFT qu'on a connue fin 2020 jusque fin 2021, et ils sont pris quand même des sacrés claques en première ligne avec tous les projets qui sont crachés, dont NBA Top Shot. On en a déjà parlé pas mal de fois quand le podcast parlait d'NBA ou d'NFT. Et à voir, moi je suis honnêtement, je sais pas, je suis pas convaincu à 100% que la hype NFT reviendra telle qu'on l'a connue. Honnêtement, je suis vraiment pas sûr.
Surtout que je pense que maintenant il y a des cadres aussi législatifs qui commencent à être mis en place, et donc il y aura peut-être un peu plus de régulation sur ce genre de projet, et donc un peu moins de, comment dire, on va dire d'argent facile à se faire comme il y avait la possibilité au début, et donc qui a attiré aussi, on va dire, beaucoup de gens en se disant ah ouais, je rentre, je vais pouvoir très facilement me faire de l'argent. Ça va peut-être être aussi un peu terminé, mais de toute façon on voit bien que Sorare, que ce soit sur le foot ou sur la NBA, veut clairement faire basculer son jeu sur un jeu un jeu quoi, c'est-à-dire un jeu de fantasy, de fun, et plus du tout sur le côté investissement. Mais pour le moment, j'ai pas l'impression que ça prenne trop encore.
Donc, non, et pourtant ils auraient pu faire. Enfin, la keynote, je me rappelle la keynote du lancement de la NBA, elle était bien quand même, la keynote.
Ouais.
Avec l'ancien joueur NBA là de Chicago, j'ai oublié son nom.
C'était qui déjà? C'était pas BJ? Non, c'était Armstrong, non? C'est le voisin, je me demande.
Non, c'était pas BJ, mais c'est pas grave.
Je l'ai plus en tête, mais c'est vrai qu'ils avaient un partenariat avec Karl Anthony Towns. Là, cette année, j'ai vu qu'ils avaient un partenariat avec 4 autres joueurs NBA. Donc, il doit y avoir Donovan Mitchell.
Je sais plus. Mais tu les as vus? Mais tu les as vus?
Bah, j'ai vu là, ils ont envoyé leur publicité sur les réseaux sociaux, et on voit les 4 joueurs qui sont dedans, et donc qui font la publicité. Maintenant, la publicité est magnifique. La publicité, à mon avis, peut être assez sympa et vendeuse. La vraie question, c'est pour le moment, chaque fois qu'ils ont sorti une publicité, elle n'est jamais arrivée, on va dire, sur le format télévision, etc. Tous les utilisateurs du League Pass le savent, quand il y a des temps morts, il y a des publicités. Espérons que finalement, cette publicité Sorare soit par exemple sur le NBA League Pass, et que ça amène des gens tout simplement à s'intéresser au projet. Ça, ce serait un vrai changement.
Oui, vraiment. Le League Pass, je pense vraiment que ça pourrait être un. Après, il faut voir combien ça coûte, mais c'est clair que ça serait une stratégie optimale. Je vais essayer de retrouver le nom de l'ancien joueur NBA.
Ouais, si tu le retrouves, moi je l'ai plus.
je vais essayer de retrouver ça. Bon, on attaque. On a parlé un peu des critiques de bazar de la trêve et de la préparation du lancement de ce début de saison. Maintenant, vraiment, on va attaquer la saison telle quelle. D'abord, moi je voulais te dire quelque chose, c'est que je lisais très régulièrement tes récaps NBA quand je jouais à Sorare NBA, parce que je me levais le matin, je regardais, je me dis mais c'est pas possible, il regarde tous les matchs en live, parce que j'ai dit, honnêtement je me suis posé la question, j'ai dit mais il a, même en ayant le League Pass, à moins qu'il ait regardé le résumé de 10 minutes, donc le résumé long là de chaque match, mais même avec ça, il dit c'est pas possible qu'il ait pu glaner toutes ces infos. Mais donc franchement, moi ça me permettait de savoir ce qui s'était passé pendant la nuit, qui avait performé, qui n'avait pas trop performé, et tu faisais ça pour tous les matchs. Enfin, c'est un taf de malade.
Un taf gigantesque qui je vais essayer on va dire de rester un petit peu dans cette lignée cette année, même si ça me prenait énormément de temps. Donc on va voir comment je vais goupiller ça. Mais c'est vrai que c'était assez intéressant pour tout le monde, parce que ça permettait, on va dire, en un coup d'œil, de voir quelles cartes étaient intéressantes, qui avait perfait, qui avait déçu aussi, parce que des fois tout simplement savoir s'il est temps entre guillemets de se séparer d'une carte, parce que le joueur commence à ne plus être performant et que le coach commence à le remettre en question. Mais pour répondre à ta question, globalement moi souvent je fonctionne comme tu le sais, les matchs NBA démarrent souvent en décalé, donc il y a des matchs qui démarrent à 1h, des matchs qui démarrent à 2h, d'autres à 3, 4, etc. Donc bien souvent je commence sur un match, je regarde la première mi-temps, puis ensuite pendant la mi-temps je bifurque sur un autre match, donc ça me permet de voir des cartons, des mi-temps. Donc j'ai on va dire un œil assez assez éveillé. En plus j'ai deux télévisions, enfin en tout cas j'ai deux écrans pour pouvoir regarder les matchs, donc j'arrive à regarder quand même pas mal de choses. Et ce que j'ai manqué, puisqu'il y a des matchs bien entendu sur lesquels j'ai pas pu zapper une seule seconde, derrière je vais regarder donc le résumé de 10 minutes en effet, et souvent essayer de lire un ou deux articles pour voir un petit peu les retours, tout simplement des insiders, parce que souvent il y a des journalistes qui suivent les franchises, on va dire, à l'année, et ces insiders-là sont capables de donner des informations très pertinentes en quelques tweets, en quelques articles. Et puis bon, après je dirais il y a aussi ma connaissance de la NBA et des rotations et des rosters, etc. Et ce qui fait que parfois en simplement quelques minutes j'arrive à voir, ah oui tiens, au deuxième quart-temps finalement c'est ce joueur-là qui est rentré et pas celui-là d'habitude. Ah ok, ça a changé. Et voilà, c'est une gymnastique à laquelle j'ai l'habitude d'effectuer depuis presque 20 ans maintenant.
Et vraiment chaque année t'as gardé la même passion, le même temps que tu consacres, c'est voilà, ta hype, ta passion n'a pas diminué.
Alors si, je vais pas te mentir que je crois que c'était au milieu des années 2010, justement, où je me rappelle que par exemple la finale Miami OKC, à cette époque-là, j'avais pas trop aimé. J'avais beaucoup aimé les playoffs, etc., mais cette finale-là j'avais pas du tout envie de la regarder. J'ai eu un petit creux aussi en 2013, voilà, où j'avais beaucoup moins regardé la NBA, mais au final j'y reviens toujours en fait. Et puis là, on va dire, entre on va dire mon travail, ma passion et Sorar, ça fait que ça s'est démultiplié encore plus ces dernières années, où vraiment j'en suis quand même à quasiment regarder tous les matchs de pré-saison sur ce début de saison pour voir où on en est, etc. Donc ouais, je suis à fond, voilà, actuellement.
C'est génial. Bah écoute, t'as fait une magnifique transition. Alors, par rapport à ces matchs de pré-saison, au trade, il y en a pas eu énormément, mais il y en a eu quelques-uns quand même qui sont très flashy. Par rapport, évidemment, à la hype de la draft et du petit Victor. Et de ce que t'as vu, donc, en pré-saison, quels sont les conclusions, mais les éléments que tu peux déjà tirer pour ce début de saison?
Alors, déjà, souvent, ce qu'on fait, c'est en NBA, comme il y a deux conférences, on va dire, on répartit. Donc, je vais déjà démarrer à l'Est, en fait, globalement. Ouais. On peut dire tout simplement qu'il y a deux équipes qui vont être assez exceptionnelles à avoir joué cette année. Donc c'est les Milwaukee Bucks, avec l'ancien MVP Giannis Antetokounmpo, mais qui ont récupéré cette année Damian Lillard, qui était en fait le franchise player historique de Portland, mais qui a 34 ans a demandé son transfert puisqu'il sait qu'il ne gagnera jamais un titre là-bas, et qui a finalement atterri dans une franchise extrêmement compétitive, et qui manquait finalement d'un joueur avec ce profil là pour repasser ce cap, puisqu'ils ont déjà gagné le titre, mais voilà, revenir au top. Donc entre un Giannis un petit peu fâché, à mon avis, de son élimination un peu ridicule l'année dernière face à Miami, sans ôter le mérite à Miami, hein, et Damian Lillard qui arrive, je pense que ça va vraiment être une équipe très excitante à voir. On a eu les prémices là dans la pré-saison, mais je pense que ça va être très très difficile à défendre quand les deux sont ensemble. C'est souvent ce qu'on dit, on parle souvent de fit, c'est-à-dire en gros, est-ce que les choses fit bien, les joueurs fit bien entre eux. Et quand on a vu ce trade, on va dire, directement je me suis dit, le fit est absolument parfait. Genre, c'est rare que je me dise ça, mais les deux ne peuvent que marcher ensemble. Ils sont totalement complémentaires.
Je te rejoins à 100% là-dessus. J'ai beaucoup de potes, on est tous fans de NBA, etc. Donc, on parlait de ce trade-là, il y en a, mais Lillard, moi j'ai dit, attends, Lillard, c'est pas Kyrie Irving. Hein. Lillard, c'est un super joueur, il sait faire le collectif, il sait jouer, prendre les choses en main quand c'est nécessaire, et je suis d'accord avec toi, ça risque de faire mal. Maintenant, il faut qu'il reste en bonne santé, parce que, corrige-moi si je me trompe, mais l'année passée, ils ont été éliminés, il y avait quand même un gros joueur qui n'a pas joué, c'était Middleton.
Ouais, et là, sur la pré-saison, Middleton n'a pas joué non plus, donc il a été re-signé, donc on va espérer que sa santé le laisse un petit peu tranquille cette année. Mais voilà, Middleton, malheureusement, maintenant, on va dire, c'est un peu la troisième option, et j'espère que ça va pas non plus trop descendre, parce qu'il a été très gêné par son genou, et voilà, on va juste espérer que le trio puisse être formé, parce que je pense que si les trois sont là, on peut avoir, on va dire, une énorme opposition, un énorme choc en playoff contre Boston, et ça me permet de faire la transition vers Boston, qui est à mon avis l'autre équipe qu'il va falloir regarder, tout simplement parce que déjà Boston va quasiment tout le temps en finale de conférence, ou en finale depuis des années, grâce à leur duo Jason Tatum et Jalen Brown, et cette année, on va dire, l'ancien coach des Celtics qui s'appelait Brad Stevens et qui est devenu leur general manager, donc c'est lui un peu qui prend les décisions au niveau des trades, de la draft, etc., a décidé un petit peu de casser les choses, et il a, on va dire, envoyé le vétéran et adoré transférer Marcus Smart, qui est on va dire un peu une idole de la franchise, à Memphis, en échange donc dans un trade à plusieurs. Et donc ils ont pu récupérer grâce à ce trade Kristaps Porzingis, qui était un joueur très très coté quand il était jeune, qui s'est un petit peu perdu depuis son départ de New York entre on va dire un passage à Dallas pas foufou, un passage à Washington où c'était un petit peu mieux mais pas très compétitif, mais c'est un joueur exceptionnel, un intérieur qui répond on va dire à mon avis à leurs besoins. Et puis ils ont eu la chance de récupérer Jrue Holiday aussi également, qui était à Milwaukee et qui a été entre guillemets échangé dans le cadre du trade de Damian Lillard. Donc c'est un peu marrant ce jeu de chaises musicales en NBA qui arrive tout le temps. Et donc là en fait tu te retrouves avec un joueur aussi fort défensivement que Marcus Smart avec Jrue Holiday, un joueur encore plus fort défensivement à l'intérieur que ce qu'ils avaient auparavant. Et donc tu te retrouves avec 4 joueurs qui sont quasiment all-stars. Voilà, c'est un peu les monstars, si tu veux, cette année à l'Est face à Milwaukee. Ça promet fort. Je pense qu'il y a, on va dire, c'est vraiment un duel à deux têtes. À mon avis, il n'y a pas vraiment d'autres équipes qui seront capables d'aller les titiller cette année, selon moi.
Ouais, s'ils restent en bonne santé, c'est vrai que les deux, c'est vraiment très très lourd. Et pour Porzingis, bon, de nouveau aussi, hein, il est quand même assez fragile. C'est vrai que c'est un peu perdu. Enfin, il a fait des gros matchs l'année passée parce que j'en ai vu deux. Je pense avec Washington, et quand il jouait il prend de la place, hein, comme tu dis, il est très grand, il est très adroit, ça risque vraiment d'être beau. Et et à part ces deux équipes là,
bah on va dire du côté de l'Est, moi il y a une équipe qui me plaît beaucoup et qui va sûrement émerger, c'est, ça va te faire plaisir, c'est Orlando. Orlando tout simplement parce que voilà, le projet est extrêmement cohérent. Ils ont eu la chance d'avoir le numéro 1 de la draft l'année dernière avec Paolo Banchero, qui est un excellent joueur qui peut devenir une star, en tout cas qui pourra être all-star, je pense sincèrement. Et en gros, ils ont, on va dire, conservé une grande partie de leur effectif, ajouté quelques vétérans et puis rouler jeunesse. En gros, on va faire progresser les jeunes, mais le projet est cohérent. La fin de saison dernière était très bonne et il y a de fortes chances, je pense, pour moi, qu'ils accèdent au minimum au play-in ou au play-off. Donc, j'appelle en NBA maintenant, il y a ce qu'on appelle un play-in, c'est-à-dire que les 6 premières équipes sont qualifiées directement en play-off et ensuite les équipes de 7 à 10 font un play-in, c'est-à-dire un mini barrage pour savoir qui sera 7e et 8e pour aller en play-off. C'est comme ça que Miami justement a été en play-off l'année dernière, ce qui est quand même assez fou. Et je vois bien Orlando être capable de rentrer dans ce fameux top 10 et être compétitif et avoir enfin des matchs en jeu en fin de saison. Ça me plaît beaucoup, hein, de cette franchise. Je pense que c'est vraiment le futur.
Ouais, moi j'aime bien top 10, oui. Après, tu m'aurais dit parmi les favoris, je t'aurais dit non, j'y crois vraiment pas. J'ai pas envie de trop m'enflammer. Je trouve qu'il y a beaucoup de très très bons jeunes, mais à voir comment la sauce se prend. Moi, je t'avoue que j'étais assez hypé par la draft de Anthony Black. Maintenant, je regarde les matchs de pre-season, c'est pas terrible du tout. Et le gros point noir, moi je trouve, c'est qu'il y a toujours pas de shooter d'extérieur. Donc il continue à empiler des gros physiques, il pénètre, enfin des gros joueurs au physique imposant, parce que l'ancien general manager, enfin le general manager d'Orlando, c'est l'ancien de Milwaukee, c'est lui qui a drafté Giannis Antetokounmpo, et il aime bien les joueurs au long segment. C'est, et d'ailleurs, ça, depuis qu'il est arrivé à Orlando, ben, tous les joueurs qu'il a drafté, c'est tous des joueurs à long segment, à part Cole Anthony, parce que bon, voilà, c'était pas un des premiers picks. Mais après, il faut un peu de shoot, quoi. Et là, le shoot entre Markelle Fultz, Anthony Black, Suggs, ça fait beaucoup de gars qui savent bien jouer au basket, mais qui savent pas shooter.
C'est ça. C'est un peu leur grosse marge de progression. Alors après, ils ont de la chance que leur pivot, Wendell Carter Jr., excuse-moi, ait pas mal progressé au shoot. Donc, on va dire, il apporte un petit peu de spacing. Il est capable de shooter à 3 points. Banchero progresse. Franz Wagner progresse. Ils ont récupéré un vétéran comme Joe Ingles aussi, qui va leur faire beaucoup de bien dans ce secteur-là, même si, voilà, il a 35 ans. Mais sur 10-15 minutes, ce sera très bien. Donc, ce que je veux dire par là, c'est, oui, bien sûr, ils seront pas du tout dans les favoris, mais on sent une vraie progression, une montée vers le haut, en sachant en plus qu'il y a des franchises, par exemple, comme Chicago ou Toronto, qui, à mon avis, vont plutôt aller vers le bas. On sent que, eux, leur projet est plutôt sur la fin, voilà, avant une reconstruction. Donc, il y a moyen d'aller gratter des places et de monter tranquillement et de commencer à se positionner pour être tout simplement des futurs playoffables dans les années à venir, quoi.
Et au niveau de Sorar, pour faire le lien, quels sont les joueurs que tu prendrais? Par exemple, tu prends Milwaukee et Boston. quels sont pour toi les joueurs qui devraient vraiment sortir du lot? Parce que c'est vrai, quand tu as des gros joueurs comme Lillard qui vient, bah, il va prendre des shoots d'autres joueurs, il va prendre des assists d'autres joueurs. Surtout que Marcus Smart, c'était clairement le cœur de la franchise, mais on peut pas dire que c'était un monstre au niveau du SO5, même s'il faisait un peu de tout. Boston aussi, avec l'arrivée de Porzingis, bah, il va prendre des shots forcément un peu peut-être à Tatum et à Jalen Brown. Compliqué, hein, ça, cette question-là, non?
Ouais, mais en fait, du côté de Milwaukee, on va dire, si vous avez les moyens, bien entendu, prenez-vous Giannis et Lillard. Je pense, comme j'avais dit, que ça marchera, et je pense que ce sera des cartes qui ramèneront des rewards, il n'y a aucun doute là-dessus. Après, pour Milwaukee, il va plutôt falloir aller chercher dans les role-players ou dans les petits jeunes. Donc il y a deux noms qui me viennent en tête, c'est Malik Beasley, qui l'année dernière était à Minnesota, qui avait été transféré aux Lakers, et on va dire, ça n'avait pas marché pour lui, ça s'était mal passé, et qui finalement atterrit à Milwaukee, où il va être finalement le compagnon de Lillard sur les lignes arrière, et il a été annoncé titulaire, a fait une excellente pré-saison avec un L10 de 5 actuellement sur ce début de saison. Je pense que c'est une carte à avoir pour les premières game week, parce que voilà, vous aurez des surperfs très très faciles. Et puis il y a un autre joueur qui excite, on va dire, un peu la fanbase NBA, qui s'appelle Marjon Beauchamp, qui est un joueur qui a seulement 19 ans, un gros physique, voilà, un joueur on va dire avec le body NBA, mais qui a encore beaucoup de travail à faire sur le plan technique et encore physique. Mais ce sera le remplaçant de Middleton, et cette année il devrait avoir une vingtaine de minutes. À noter également que du côté de Milwaukee, ils ont changé de coach, donc ça va aussi changer un petit peu les dynamiques en termes de joueurs. Il y a des joueurs qui l'année dernière ne jouaient pas trop, et finalement cette année vont sûrement avoir un peu plus de temps de jeu. Donc Marjon Beauchamp, c'est à mon avis un joueur qui peut être très intéressant, que ce soit pour jouer cette année, mais même aussi pour le futur. Il y a de fortes probabilités, si tout se passe bien, si le développement se passe bien, que ce soit finalement leur futur titulaire sur ce poste là
Okay, voilà.
Et puis du côté de Boston, je pense qu'on va devoir patienter malheureusement, parce que beaucoup de joueurs ont eu des très grosses perfs durant les playoffs. Drew Holiday, enfin en tout cas au moins Tatum et Brown. Et je pense que comme tout le monde va un petit peu se vampiriser en termes de shoot, leur L10 va être assez haut, et je pense que ça va être assez compliqué de les insérer dans des line-up en début de saison. D'un point de vue basket, ça va être très cool à voir jouer Boston. D'un point de vue Sorar, je pense pas que ce soit la meilleure équipe à exploiter, en tout cas cette année, en tout cas au moins sur ce début de saison. Donc ça, ce sera compliqué. Et pour finir sur Orlando, dont on a parlé, je pense qu'il y a un joueur que je kiffe énormément, qui s'appelle Markel Fultz, qui est leur meneur de jeu, pour plein de raisons, pour le parcours, le fait que c'était un joueur absolument exceptionnel à l'université, qu'il se blesse à l'épaule quand il arrive à Philadelphie, qu'il perd son shoot. C'est la première fois de ma vie que je vois un joueur qui perd son shoot, il ne sait plus shooter, qui perd la confiance, puis finalement qui se fait récupérer par Orlando au moment où est-ce que sa valeur est au plus bas, puis qui retrouve au fur et à mesure de la confiance, qui redevient un super joueur NBA. J'aime beaucoup le parcours de joueur et tout ce qu'il apporte et tout ce qu'il fait sur le terrain. Donc ça, c'est un joueur, c'est plus coup de cœur. Je sais pas si en termes de SO5, ce sera vraiment la carte la plus pertinente, mais c'est un vrai coup de cœur, et j'espère pour lui qu'il fera une grosse saison.
Ouais, moi j'adore ce joueur aussi, vraiment. S'il avait un peu plus de shoot, mais là il a l'air d'être en mission. Là, j'ai regardé un peu l'actu, ça, j'ai bien suivi pendant l'intersaison des images, des entraînements, des interviews, etc. Je suis toujours abonné au site officiel d'Orlando, et j'aime bien être au courant de ce qui se passe là-bas. Et puis moi j'ai un autre joueur que j'attends avec impatience son retour, en espérant qu'il reste entier, qui était blindé de potentiel. C'était Jonathan Isaac. Ouais. Mais à mon avis, ils vont le faire revenir vraiment tout doucement. Et puis il y en a un que j'adore, moi, depuis. Enfin, je l'adorais déjà l'année passée, et je trouve qu'à la Coupe du Monde, il a été monstrueux. C'est Franz Wagner.
Ouais,
franchement,
sûr.
Lui, pour moi, ça va être une des révélations de la saison.
Ah oui, je pense. Et ce qui est assez amusant avec Franz Wagner, c'est que c'est vraiment le joueur anti-flashy par excellence. C'est-à-dire que c'est aucune méchanceté, hein, mais c'est le blanc bec qui shoot à 3 points, qui saute pas très haut, etc. Donc c'est vrai que c'est pas le joueur le plus excitant à avoir joué, mais clairement c'est un joueur avec des super fondamentaux, et je pense que c'est aussi le futur de cette franchise. C'est vraiment, avec Panquero, ils ont vraiment tout ce qu'il faut sur le front de courte pour percer dans le futur. C'est un joueur qui va exploser. Pour Isaac, par contre, soyez quand même prudent, c'est un joueur qui a pas joué pendant 3 ans.
Ouais,
donc là on part sur vraiment quelque chose de très spéculatif avec lui. Le potentiel est exceptionnel, mais j'ai rarement vu un joueur qui a pas joué pendant 3 ans en NBA revenir quand même à un niveau suffisamment bon pour être très performant.
On est d'accord. Bon, on va pas parler comme ça de chaque équipe NBA, mais par contre, moi je voudrais quand même poser une question, parce qu'il y a une équipe qui m'intrigue quand même, c'est Philadelphie, avec le chaos Harden la saison passée, etc. Je trouve que ils ont une équipe, honnêtement, qui tient la route. D'après moi, bon, il y a toujours le GOAT Embiid, et je trouve qu'il est encore mieux entouré qu'avant. Enfin, c'est mon avis à voir sur la saison. Qu'est-ce que tu en penses?
Alors, c'est étonnant, parce que moi j'avais un avis contraire par rapport à toi.
Non, mais vas-y.
Preview. Non, mais en globalement, bon, déjà tu perds James James Harden, malgré ce que on va dire son caractère de cochon, ça reste quand même un joueur exceptionnel. C'était le meilleur passeur de la ligue l'année dernière. Dans leur effectif, au final, ils ont recruté quelques joueurs, mais on va dire plutôt des role players. Il n'y a pas grand chose qui change. Donc tu perds, on va dire, un de tes meilleurs joueurs sans vraiment te renforcer. Je pense que ce que ça va donner quand même cette année, c'est au moins l'émergence définitive Tyrese Maxey, qui est leur on va dire meneur arrière titulaire, qui est, on va dire, un petit peu un allumé du shoot et qui va pouvoir se faire plaisir à côté de Embiid et prendre beaucoup de tirs. Il y a aussi un autre joueur, quand on parlait des joueurs qui pourraient être intéressants, moi, que j'aime énormément, qui s'appelle D'Anthony Melton, qui est un ancien joueur de Memphis qui était très mal utilisé, je trouve, par Doc Rivers l'année dernière. Et si James Harden n'est pas là, c'est un joueur qui fait énormément d'interceptions, qui défend dur, qui shoot à 3 points et qui sera peut-être même le meneur titulaire pour démarrer la saison sans Harden. Donc je pense que c'est vraiment une carte à avoir, même pour l'ensemble de la saison, parce que le joueur a vraiment un potentiel très sympathique. Mais je trouve quand même que pour une équipe qui était censée être, on va dire, concurrencée Milwaukee et Boston, quand on compare les intersaisons de Milwaukee et Boston et celles de Philadelphie, il y a quand même un gap gigantesque, je trouve, de leur côté. En gros, ils perdent un joueur pendant que Milwaukee et Boston se renforcent. Donc il y a vraiment un écart qui commence à se faire entre eux, et je vois bien Philadelphie gagner un peu moins de matchs que l'année dernière et reculer légèrement au classement, selon moi, je pense. Après, j'ai pas la science infuse, on verra bien ce que ça donnera. La NBA est pleine de surprises, mais ça risque quand même d'être compliqué. Ils ont une profondeur de banc un peu légère, selon moi.
Ouais, bah écoute, moi c'était principalement pour les deux joueurs que tu as cités, qui vont prendre un rôle plus important, Maxey et Melton. Il y a l'arrivée quand même de Beverly aussi, qui amène quand même, c'est important d'avoir des guerriers comme ça dans une équipe pour donner le là au niveau de l'engagement et tout. Donc c'est pour ça. Moi c'est plus par rapport à l'émergence de ces joueurs qui est un peu quelque part étouffé par Harden. À voir, vraiment à voir ce que ça va donner, mais on
ça va être intéressant
au jeu.
De toute façon.
Ouais, ça va être intéressant, je pense aussi. Alors quels sont pour je te laisse continuer par rapport à l'Est. Quels sont les joueurs ou les équipes encore qui auxquelles il faut faire attention?
Ouais, alors on peut basculer vite fait sur la conférence Ouest et on va être concis, mais globalement pour moi il y a deux équipes qui sont vraiment hype cette année. Donc c'est Phoenix, tout simplement parce que ils ont décidé donc au milieu de saison dernière de récupérer Kevin Durant pour l'associer à Devin Booker, et ils ont décidé donc de récupérer Bradley Beal, qui est, on va dire, un multiple All-Star à Washington, pour l'insérer donc dans cette équipe. Donc vous avez j'allais dire trois, peut-être des 10-15 meilleurs attaquants de la ligue dans la même équipe. Alors vous avez plus de vrais meneurs de jeu puisque Chris Paul est parti, mais ça va être quand même très très difficile à défendre. Et ils ont aussi, je pense, fait le bon choix en se séparant de DeAndre Ayton, mais surtout en récupérant une palanquée de ce qu'on appelle de role players, c'est-à-dire des joueurs qui connaissent leur rôle, qui sont capables d'apporter des choses dans cette équipe. Et ils ont une très belle profondeur au niveau de l'effectif. Les postes sont doublés. S'il y a une blessure, il y a quand même, alors tu perds un peu en talent, bien sûr, si Durant, Booker et Beal sont absents, mais t'as quand même des joueurs qui connaissent la NBA, qui sont là depuis longtemps, qui savent faire le boulot. Pour moi, Phoenix, c'est une équipe gigantesque. Je les vois peut-être avoir une saison régulière un peu tranquillou. C'est pas l'objectif, donc ils vont peut-être pas enchaîner les wins parfaitement, mais ça va être une équipe très compliquée à battre en playoff, surtout que je pense qu'ils peuvent encore s'améliorer durant l'année. Donc ce sera vraiment l'équipe un petit peu phare à l'Ouest. Et l'autre équipe qui, on va dire, hype énormément de gens, c'est bien entendu Oklahoma City, après la période exceptionnelle où ils avaient donc Durant, Harden, Westbrook. Ils ont eu un creux, et puis ils ont eu la chance de récupérer un joueur j'ai même pas de mots tellement il est incroyable, avec Shai Gilgeous-Alexander, qui a fait une coupe du monde dantesque.
Ouais, folle. Ouais.
Voilà, c'est un joueur que j'apprécie depuis ses débuts aux Clippers, que j'avais annoncé à tout le monde que ce serait une star, parce qu'il a vraiment tout le package. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont pris leur temps, ils l'ont développé, ils ont ajouté des pièces, et puis là ils ont donc je rappelle que le numéro 2, je crois, Chet Holmgren de l'année dernière n'avait pas joué au OKC parce qu'il s'était blessé, et cette année donc il est disponible. Donc leur gros problème l'année dernière, c'était justement d'avoir un secteur intérieur un peu faible, et là ils corrigent cette carence de leur côté. Donc c'est une équipe qui n'était pas en playoff l'année dernière, mais qui a tout pour peut-être finir dans le top 8, et soyons peut-être un peu fous, même dans le top 6. C'est pas la première fois qu'on verrait des équipes jeunes d'un coup exploser. On avait eu ce cas avec les Warriors à l'époque et tout ça, et je serais pas du tout étonné qu'il y ait un gap vraiment monstrueux vers le haut de la part de Oklahoma City, avec une équipe ultra excitante, quasiment que des jeunes joueurs qui peuvent progresser. Ça va être c'est la franchise du futur, hein, très clairement, en NBA.
Ouais, nickel. Je te suis là-dessus, j'ai rien à dire.
Ouais, voilà, c'est. Et puis après, alors, on va en parler quand même, mais bon, bien entendu, dans les. Moi, j'ai ajouté deux petites franchises, voilà, on va faire court là-dessus, mais qui sont bien entendu à regarder cette année à l'Ouest, c'est San Antonio, mais ça, on peut pas y échapper avec le phénomène Victor Wembanyama. Je sais même pas si j'ai besoin d'épiloguer là-dessus, tellement en France, on en entend parler absolument partout. Moi, mon avis sur ce joueur-là, c'est que c'est un joueur absolument exceptionnel, unique. J'ai eu la chance de le voir deux fois cette année à Paris, et on voit que c'est quelqu'un de différent. Genre, on sent la différence. C'est pas simplement qu'il est grand, c'est qu'il est grand, il est agile, il dribble bien, il shoot bien, il est intelligent, que ce soit sur le parquet mais aussi en dehors, et ça change tout. À partir du sens que vous avez un joueur bon et aussi bien posé et qui est prêt à écouter les critiques, à progresser et tout, sky is the limit, hein, comme on dit en NBA. Hein.
Tout à fait. Un peu Mbappé du foot, quoi.
Bah, il y a eu sa fameuse phrase qui a fait un peu rire, où il a dit comment vous vous comparez par rapport à Mbappé. Il a dit j'espère que Mbappé un jour qu'il sera le Mbappé du basket. En gros, voilà, il a voulu inverser un peu les rôles. C'était assez drôle quand il a dit ça, un peu hautain, mais il a confiance en lui. Et puis bah, la deuxième franchise éventuellement dont on peut parler, c'est les Clippers, qui sont les contenders depuis des années et des années. On n'y croit plus parce qu'ils sont tout le temps blessés. Je rappelle qu'ils ont deux joueurs exceptionnels avec Kawhi Leonard et Paul George qui passent leur vie à l'infirmerie, et il semblerait qu'ils soient revenus en forme sur ce début de saison. L'équipe est très bien équilibrée, en fait ils ont tout pour, mais personne n'y croit parce qu'on sait qu'au mois de mars les deux vont être sur le banc de touche. Mais si éventuellement ils ne se blessent pas, attention aux Clippers. Voilà, donc c'est les deux franchises qui me viennent en tête, qui pourront sur lesquelles on pourrait avoir un petit coup d'œil durant la saison.
Ouais. Et sinon, pour les valeurs sûres style Denver, Golden State, ils vont rester normalement toujours aussi dangereux, non?
Ouais, bah Denver, ils ont un 5 majeur qui a absolument pas bougé, donc qui a gagné le titre, et ça va être une équipe quand même très très solide durant la saison. Par contre, ils ont quand même perdu quelques éléments clés qui les ont amenés au titre, comme Bruce Brown qui est parti à Indiana, Jeff Green le vétéran qui est parti à Houston, et donc ils les ont remplacés beaucoup par des jeunes joueurs qui vont devoir émerger. Donc ça peut très très bien se passer, mais on a vu le cas justement avec Golden State quand ils ont essayé de développer des jeunes joueurs, que ça a pas marché. Par exemple Wiseman qui maintenant à Détroit, ça a pas du tout marché. Kuminga, ça va peut-être marcher cette année, mais ça avait pas marché les années précédentes, etc. Jordan Poole, justement, ça n'a pas marché alors que c'était leur plus gros espoir, et ils l'ont envoyé à Washington. Donc c'est pas toujours simple. On pense que remplacer un vétéran par un jeune, c'est logique parce qu'il faut développer les jeunes, mais parfois il y a des jeunes qui n'atteignent pas leur potentiel ou qui n'y arrivent pas. Donc c'est un pari, et c'est logique parce que de toute façon globalement ils payent leurs 5 joueurs très très cher Denver, et ils ont plus d'argent tout simplement pour pouvoir faire leur équipe. Ouais. C'est ça, c'est l'avantage du c'est ce que j'explique souvent en NBA, et c'est ça qui est très cool, c'est que par rapport au foot, il y a un salary cap, et que les équipes les plus mauvaises peuvent se renforcer à la draft, et que les équipes, on va dire, les plus fortes sont obligées de payer très très cher et de redonner de l'argent aux équipes les plus faibles. Donc ça équilibre les forces en présence, et les dynamiques, par exemple telle équipe était très forte pendant des années, peuvent très très vite s'inverser, et c'est ça qui est cool en NBA. C'est pour ça souvent que quand tu disais par exemple sur la NBA Paris Game que Chicago et Détroit, c'est deux noms ronflants, ouais, mais c'était dans les années 90, maintenant on est en 2010 et voilà, enfin 2020 même, voilà, et en gros maintenant c'est plus du tout des franchises intéressantes, et ça tourne vite en NBA par rapport à ça.
Tout à fait, et c'est ça que j'adore aussi, moi, c'est le fait que toutes les équipes partent plus ou moins d'un pied égalité, mais bon, on sait aussi très bien que les grosses villes, les Los Angeles, les Boston, etc., ils ont aussi plus facile à attirer des gros joueurs d'autres de petites franchises, c'est comme ça. Orlando par exemple, ou même Atlanta.
Ouais, je comprends, hein, t'es un joueur de basket américain qui touche pas mal d'argent, c'est quand même plus sympa de le dépenser à New York ou à Los Angeles qu'à Milwaukee, quoi. Et critique, hein, par rapport à ça.
Et pour sa hype aussi, c'est tout à fait différent, hein, donc ça c'est clair qu'il peut développer au niveau de la publicité, etc. T'as pas le même, t'as pas le même regard ou le même public quand tu joues aux Lakers que quand tu joues je vais prendre Orlando, voilà.
Ouais.
Mais Shaquille O'Neal aux Lakers ou Orlando, c'est pas la même chose, quoi.
Ouais, tout à fait. Mais ça a un petit peu changé quand même, parce que maintenant, on va dire, toutes les franchises sont bien gérées, bien valorisées, bien mises en avant aussi par la NBA. Je veux dire, quand on voit Giannis et Milwaukee, ça reste quand même, vraiment, pour le coup, une toute petite équipe, toute petite ville. Et pourtant, ça nous paraît pas, on va dire, idiot de voir, par exemple, Damian Lillard arriver à Milwaukee, alors que pourtant, c'est vraiment une toute petite franchise. Je veux dire, Giannis l'a mis au centre de la carte du microcosme NBA. Donc c'est quand même possible, mais c'est sûr que quand vous allez dans un gros marché, ça change absolument toute votre dynamique, quoi.
Ouais, la dimension change. Minnesota, qu'est-ce que t'en penses? Parce que moi, je trouve que l'année passée, ils étaient quand même pas loin d'embêter Denver au premier tour. Et je me rappelle, Bruce Brown, il avait dit, après avoir gagné donc le titre, il a dit que leur adversaire le plus compliqué, c'était probablement Minnesota.
C'est une franchise qui est en devenir. Je pense que ce qui les handicape, c'est malheureusement, c'est dur à dire, le trade de Rudy Gobert, qu'ils ont payé très très cher. Ils l'ont échangé contre un choix de draft qui s'appelle Walker Kessler, qui est maintenant monstrueux à Utah, plus plein de tours de draft, plus... Enfin bon, en gros, c'est un trade absolument déséquilibré, on le savait dès le début, mais c'est encore pire année après année. Et donc, ça les handicape aussi parce que, on va dire, l'association avec Karl Anthony Towns, c'est pas optimal, c'est le moins qu'on puisse dire, et je pense que c'est pas ce qu'il leur faudrait, et ça limite un petit peu la capacité à cette équipe à se propulser vers le haut. Mais ils ont quand même un joueur exceptionnel, hein, la présence d'Anthony Edwards qui a fait une Coupe du Monde lui aussi assez dingue, qui passe un cap. Ce qui est assez marrant, moi j'étais assez sceptique sur Anthony Edwards quand il est arrivé en NBA, parce que sa première déclaration c'était je n'aime pas le basket, moi c'est juste un métier. Donc c'est vrai que c'est vrai. C'est le cas de beaucoup de joueurs, pareil au foot, hein, c'est pareil. Mais c'est assez drôle de le dire. Par contre, ce qui est assez... il l'a redit, je crois que c'était l'intersaison d'après, il a dit ouais, mais finalement je trouve que c'est assez fun quand même le basket. Voilà, donc il s'est rendu compte qu'il était bon et qu'il avait envie de progresser. Donc on va dire ça change quand même pas mal de choses pour Minnesota. Et voilà, on sent aussi qu'il y a un basculement. Pendant très longtemps on disait Minnesota c'est l'équipe de Karl Anthony Towns, maintenant Minnesota c'est l'équipe d'Anthony Edwards. Donc déjà ça change un peu, et je serais pas étonné qu'ils essayent des mouvements un peu agressifs en essayant de trader Karl Anthony Towns pour essayer de passer ce fameux cap. Mais est-ce qu'ils vont pouvoir vraiment prétendre aller loin en playoff? J'ai envie de dire, déjà il faut qu'ils aillent en playoff, et s'ils y vont, si déjà ils passent un tour, ce sera une très grande réussite pour cette franchise qui est historiquement très mauvaise, hein. Je rappelle qu'ils n'ont jamais été plus loin que la finale de conférence avec Kevin Garnett, et puis c'est tout, quoi. Ça, c'est une des rares franchises qui a jamais gagné de titre en NBA, hein, justement, les Wolves. Hein.
Ouais, tout à fait, super. Et Sacramento?
Bah, exceptionnel l'année dernière, mais je reste un peu circonspect pour une simple et bonne raison, c'est que l'année dernière c'est l'équipe qui a eu le moins de blessures de la NBA, et on sait que c'est un facteur qui joue énormément dans une saison à 82 matchs. Si vous avez une ou deux de vos stars qui manquent 20 ou 30 matchs, obligatoirement, bah vous n'allez pas du tout avoir le même bilan. Donc on va dire ils ont eu une saison presque parfaite avec des joueurs qui étaient là tout le temps, une équipe on va dire bien équilibrée, ils ont pas trop fait de mouvements et tout. Les arrivées de l'intersaison ont été plutôt pertinentes, mais est-ce qu'ils vont pouvoir de nouveau être troisième de la conférence Ouest? Ce que je veux dire, c'est que là ils vont être attendus. Les équipes vont s'adapter, les équipes vont voir Sacramento comme une équipe forte et plus comme on va dire un cancre de la NBA comme il pouvait l'être avant, et ça va être aussi une équipe à abattre. Donc je pense que ça va être une saison un peu plus compliquée pour eux, mais s'ils font le dos rond et qu'ils acceptent que on va dire ils peuvent pas non plus être tout le temps troisième de conférence, ça peut quand même être sympathique. Je pense qu'ils peuvent aller en playoff et voilà, continuer à progresser. De toute façon ils ont leur équipe qui est on va dire validée pour les 4 ou 5 prochaines années. Globalement tout le monde est sous contrat pour 3, 4, 5 ans, donc faut aller dans le projet et puis faut y aller à fond et essayer de s'éclater. Je pense qu'ils ont tellement eu d'années catastrophiques que le public de Sacramento sera quand même content s'ils vont tout le temps en playoff, même s'ils perdent au premier tour, hein, j'ai envie de dire.
Ouais, et l'année passée quand même on n'était pas loin, enfin à un doigt cassé de Fox de l'énorme surprise qu'ont Golden State, hein.
Est-ce que c'est si énorme que ça, sachant qu'ils étaient 3e et Golden State 6e? Mais oui, je comprends ce que tu veux
par
dire.
Rapport au nom, et par rapport aussi à l'expérience playoff, parce que c'est vrai que des grosses équipes des jeunes équipes NBA qui font des grosses saisons, les playoffs c'est quand même un autre sport, et on le voit clairement, hein.
Ah oui.
L'intensité n'est plus la même, c'est comme si on changeait de dimension, c'est un autre championnat.
Ouais. C'est ça, et c'est aussi pour ça que c'est un petit peu dommage quand on repasse un petit peu sur le côté Sorare, de se dire que finalement c'est presque deux championnats différents et qu'on n'ait pas réussi à trouver un truc qui permette de hyper plus les gens sur ces playoffs, alors que pourtant elles ont été exceptionnelles en termes d'intensité, en termes de rebondissement. Voilà, c'était des très belles playoffs pour le coup, et voilà, un petit peu dommage que ça n'ait pas pu prendre la mayonnaise au niveau de Sorare. Mais ouais, c'est vraiment pas le même sport, hein. Vous regardez un match de saison régulière par exemple au mois d'avril entre Détroit et Charlotte, et un mois après vous regardez un premier tour de playoff, vous vous demandez s'ils jouent vraiment dans la même ligue les deux équipes, hein. Enfin les quatre équipes.
C'est vrai, c'est vrai. Tu veux encore ajouter quelque chose par rapport aux équipes ou bien on peut attaquer les joueurs?
Non, pour les équipes on est bon. Hein.
Et donc pour les joueurs, quels sont les joueurs? Bon, on en a parlé évidemment de Wemby. Pour toi, c'est un joueur à avoir, SO5, tu crois qu'il va remplir la stat sheet?
Ah oui, mais le problème, ça va être son prix. En fait, si là, ça va être, en fait, son prix va être complètement décorrélé de ses performances. Donc, si vous avez les moyens, que vous avez envie de vous faire plaisir et que vous kiffez le joueur comme moi, pareil, prenez-le. Par contre, je pense que moi, je vais attendre de voir un petit peu l'évolution du marché, attendre peut-être un petit peu que son prix se tasse ou en tout cas trouve un, on va dire, un prix médian. Et puis à ce moment-là, on y réfléchira. Mais c'est un joueur. Si tout se passe bien, s'il a pas des blessures graves durant sa carrière et on va dire, il met tout en place en termes de physique pour que ça n'arrive pas, ça peut être Hall of Famer, donc ça peut être un des meilleurs joueurs de l'histoire si vraiment ça tourne bien. J'y crois très très fort, il a vraiment tout pour lui. Et sur Sorare en plus, c'est un joueur très méta Sorare, puisque je rappelle que sur Sorare, ce qui est important, c'est on va dire beaucoup les stats périphériques, c'est-à-dire autre chose que les points. Donc bien sûr, mm-hmm. Wemby mettra des points, mais il prendra des rebonds, il vous fera des contres, des interceptions, quelques passes, etc. C'est un joueur qui peut vous faire un match par exemple à 20 points, 12 rebonds, on va dire plutôt 10 rebonds, 6 passes, 5 contres, 2 interceptions. Et là, vous avez, je sais pas quoi, ça doit faire à peu près 55 points ou 60 points Sorare si vous avez un truc comme ça. Ouais. Et en gros, ouais. dans l'univers Sorare, quand vous tapez un 60, vous êtes à peu près borderline MVP à avoir dans votre roster. Voilà, si vous avez des 60 régulièrement, vous êtes un joueur à mettre par exemple en champion. Voilà. Donc ce sera clairement un joueur extrêmement pertinent à avoir, et on en a parlé rapidement. Il y a aussi Chet Holmgren de OKC qui est un petit peu son concurrent direct pour le titre de rookie de l'année avec Scoot Anderson de Portland, mais à mon avis qui part de plus loin. Et pareil, Holmgren, c'est un joueur qui a tout à fait le profil Sorare, parce que pareil, c'est un joueur assez intelligent qui contre pas mal de ballons, qui peut faire des passes, qui peut shooter à 3 points, voilà. Donc tout ce qu'on aime en fait dans Sorare, c'est à dire des points et plein de stats périphériques qui permettent de monter dans les stratosphères. Donc deux joueurs très jeunes, à mon avis prétendants au rookie de l'année, et qui seront très intéressants à avoir dans une galerie, je pense, cette année ou pour le futur.
Oui, je valide aussi. Wembanyama, ça va être quand même quelque chose. Ça va vraiment.
Moi, je me pose vraiment la question de savoir à combien va partir sa première carte, puisque je rappelle que là, pour le moment, ils les ont pas mis en vente, puisqu'ils ont décidé de ne pas intégrer les rookies qui avaient un L10 de 0 pour. Enfin, en tout cas, les rookies de la loterie, donc les 14 premiers rookies pour les deux premières Game Week. Donc, on va dire que globalement, sa carte va être mise en vente dans une grosse dizaine de jours, 12 jours, et je sais pas du tout à quel prix ça va partir, mais à mon avis ça va partir très 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 haut, que ce soit la limited ou la rare. C'est quand même un moment d'histoire finalement, parce que si tout se passe bien, celui qui a la première carte de Wemby, si vous croyez au projet Sorare, ça peut se faire très très haut, hein, quand même plus tard.
Ah ouais, les cartes physiques, moi je me rappelle quand il y avait la première carte, et encore dans le monde physique il y a tout plein de collections différentes, mais quand tu avais la première carte d'une belle collection, par exemple de LeBron James, ou si on voit vraiment regarder les joueurs générationnels, bah le prix vraiment après quelques années il explose. Mais comme tu dis, ça dépendra de Sorare et de son futur développement. Tu disais que tu l'avais vu, moi je l'avais vu aussi, j'avais mis un message sur X pour la petite histoire il y a je pense un peu plus d'un an, un an et demi, etc., où j'avais mis des photos d'un tournoi international où mon club avait joué contre Nanterre dans un tournoi international, et voilà, et mon fils par exemple il a eu la chance d'affronter Victor sur le terrain. Ils ont pas eu la même trajectoire de carrière, parce que bon, voilà. Mais par contre, on a un de nos joueurs, donc il a tenu pendant tout le match, qui est un 2004, comme Victor, et qui a fait ses premiers pas avec le Maccabi Rahana, qui participe à la pre-season, et il a joué quelques minutes contre Brooklyn, et je sais plus contre qui encore. Voilà. J'espère qu'un jour il pourra avoir ce rêve dans NBA, mais déjà à l'époque, il était impressionnant, mais impressionnant dans le sens où il était très calme, très posé, tu vois. Ouais. Autant là, depuis la hype, on va dire quoi, il y a 2 ans,
dire un an, hein, presque, parce qu'au final, il y a 2 ans, il était à l'ASVEL avec Tony Parker et il était mal utilisé. Ouais. C'est finalement en arrivant au Metropolitans, et surtout ce qui a déclenché la hype, c'est le fait qu'ils aient décidé de faire 2 matchs aux États-Unis contre l'équipe de G League, qui s'appelle la G League Ignite, avec donc Scoot Anderson, qui était son outsider pour le numéro 1 de la draft, et qu'il a... Voilà, il a explosé aux États-Unis dans un match avec les règles américaines où il a mis, je crois, 28 points premier match, 32 points le deuxième. Enfin bon, voilà quoi. un monstre. Hein. Ouais, ça a quand même vraiment lancé la hype, on va dire.
Ouais, il y a eu ça, et puis il y a aussi le fait qu'il s'est devenu un peu le go-to guy, tu vois. Moi, quand je le voyais jeune, je l'ai vu à deux reprises jeune, enfin à deux reprises, à deux tournois, donc je l'ai vu plusieurs fois lors de ces deux tournois. C'est quelqu'un qui m'avait frappé, il était excessivement grand, parce qu'à 11 ans, il avait 1m92. Moi, je fais 1m92, il avait ma taille à 11 ans et demi. Il faisait du 49,5. Ça, j'oublierai jamais de ma vie, parce qu'à un moment, il est assis à côté de moi. En fait, il y avait la finale du tournoi, c'était le tournoi international de Mulhouse, qui est un gros tournoi. Eux jouent en finale, je sais plus contre quelle équipe, je sais plus. Mais ils gagnent, donc ils sont champions U11. U13, donc il avait 11 ans et demi, ils jouent en U13. Et ensuite, donc il est venu s'asseoir, moi j'étais au bord du terrain, il est venu s'asseoir à côté de moi, on a regardé la finale U15, et c'était monstrueux le niveau, c'était Nanterre-Real de Madrid, donc et Nanterre avait gagné d'un point, et puis je regarde ses chaussures, je lui dis, mais j'ai Victor, tu mets combien comme pointure? Il me dit, 49,5, monsieur. Je dis, mais mon Dieu, moi je faisais du 47,5, j'avais des petits pieds à côté de lui, il a 11,5. Mais voilà, ça c'est question physique, mais question jeu basket, excessivement altruiste. Il l'écrasait pas, on ne voyait pas que lui. Il faisait jouer ses coéquipiers et c'était pas le meilleur scoreur de son équipe. Il y avait deux gros scoreurs, un ailier, je pense, et un distributeur qui marquait beaucoup plus que lui. Mais tu voyais vraiment qu'il avait une aisance, quoi, quand il était sur le terrain, vraiment facile. Mais j'aurais jamais imaginé, sérieusement, qu'il allait devenir comme ça, quoi, tu vois.
Parce qu'il
crevait pas le. Enfin, si, il crevait l'écran, mais avec sa facilité, mais pas avec des stats. Où tu te dis, purée, c'est pas possible, il écrase absolument tout le monde, tu vois.
Ouais, et puis bon, les grands, on a toujours un peu peur que ce soit cool quand ils sont jeunes, mais finalement, quand ça commence à arriver à l'âge adulte, que ce soit beaucoup plus compliqué face à des physiques plus imposants. Mais il a bien travaillé, et je pense que vraiment, ce qui fait la différence par rapport à pas mal d'autres joueurs, c'est qu'il a vraiment un bon cadre autour de lui, des gens qui l'entourent qui sont très bien, et il a vraiment la tête sur les épaules, et aussi une vraie volonté de travailler. Donc, en dehors du talent, parce qu'il y a plein de joueurs qui ont du talent en NBA, mais on sent que tout est bien mis en place pour que ça avance dans le bon sens. Et c'est tout ce qu'on lui souhaite. Bien entendu, ça ne veut pas dire que les Spurs vont aller en playoff cette année. C'est clairement une année de transition, une année de test. Ça va essayer pas mal de choses. Ils ne savent même pas trop comment encore le faire jouer. Hier, il y avait un article qui disait que les arbitres ne savaient pas comment l'arbitrer en NBA pour le moment. Parce qu'en fait, souvent en NBA, selon le style de jeu que vous avez, par exemple, les joueurs très athlétiques, les arbitres vont avoir l'habitude que ça rentre dans la raquette et puis siffler pas mal de fautes quand ils vont en pénétration. Mais lui, on sait pas, parce qu'en fait, il fait 2m25, il shoot à 3 points, ils savent pas. Ils arrivent pas trop à comprendre quand le mec met la main pour essayer de le gêner, en fait, il est au niveau de sa cuisse.
C'est ça, exactement.
Donc ils ont beaucoup de difficultés, donc je pense que ça va prendre aussi un temps d'adaptation. Donc dans un premier temps, ils pourraient aussi avoir des moments de frustration avec des arbitres qui vont pas être obligatoirement très tendres avec lui, mais je suis très confiant pour l'avenir, y a pas de soucis.
Ouais, super. Alors, t'as d'autres joueurs aussi dont tu veux parler ?
Alors, y a trois autres joueurs dont on peut parler. Et puis on clôturera là-dessus pour la partie vraiment joueur. Il y a donc, on a parlé de Phoenix. Moi je pense que Devin Booker, c'est sa saison. C'est un joueur extrêmement fort qui chaque année progresse offensivement. En plus, il a une équipe énorme autour de lui. Mais c'est vraiment le leader, parce que Kevin Durant a quand même quasiment 35 ans. C'est un métronome, mais c'est plus le Kevin Durant non plus de ses jeunes années. Il est fort, mais je pense que c'est la franchise de Devin Booker. Et il va faire des cartons offensifs absolument monstrueux. D'autant plus que il va avoir beaucoup d'espace, puisque si vous faites une prise à deux sur lui, il donne le ballon à Bill ou à Durant, autant vous dire que ça va être très très compliqué pour vous de gagner un match si vous faites ça. Donc en plus, il va jouer meneur de jeu puisque Chris Paul est parti, et donc d'un point de vue vraiment Sorare aussi, c'est un joueur qui va sûrement marquer un peu plus de points, qui va faire un peu plus de passes, donc je pense que ses stats vont globalement augmenter, et c'est surtout un joueur qui a pas mal de variance, puisqu'il est capable d'aller vous faire un match par exemple à 50 points, puis ensuite un match à 20 points, c'est le genre de joueur dont on va avoir besoin, d'autant plus comme on en a parlé assez rapidement que les rewards ont diminué, donc je pense que c'est fini l'époque où on alignait une équipe, on va dire, un petit peu sécurité pour aller chercher une tier 4 ou une tier 3, etc. Maintenant, va falloir aller prendre des joueurs avec des très grosses variances qui sont capables d'aller taper des énormes scores pour aller taper des top 10, des top 1, hein, tout simplement. Donc ça en fait partie. Et il y a deux jeunes joueurs dont j'ai envie de parler qui, à mon avis, seront dans les progressions de l'année. Il y a Kate Cunningham de Détroit. Donc Détroit, comme on en a parlé rapidement, c'est quand même très compliqué depuis un moment. Ils sont clairement nul, nul depuis des années, et ils ont eu la chance de drafter Cunningham, mais le problème c'est qu'il s'est blessé l'année dernière et s'est fait une fracture du tibia en début de saison, alors qu'il était très, il y avait pas mal de hype sur lui, et on espère que cette saison, dont je rappelle ils ont récupéré Monty Williams qui est l'ancien coach de Phoenix, et ils l'ont signé à prix d'or, je crois que c'est le coach le mieux payé de la NBA pour un contrat de 5 ans, donc là ils partent vraiment sur un projet de long terme des trois, mais autour de Cunningham, autour de leur coach, donc en toute logique cette saison ça doit être la saison où on commence à parler un peu de Cunningham en se disant hey, si c'était une star en devenir, etc. Donc on espère pour lui que ça va aller dans ce sens là, il a tout pour lui, gros physique, super passeur, très intelligent, bon shoot à 3 points, et il a, je sais pas si tu es au courant, mais tu sais quand il y a eu les sélections cette année de Team USA, souvent il joue face à une équipe qui est composée d'autres joueurs NBA qui s'appelle la Select Team, et il a fait partie donc de la Select Team quand ils ont fait leurs entraînements à Vegas, et tout le monde a dit que c'était quasiment le meilleur joueur devant les Anthony Edwards et tout, hein. Donc
Mais là je te suis à fond. Vraiment j'attends une grosse. S'il reste bien physiquement, j'attends vraiment une grosse saison de sa part. J'aime beaucoup le joueur.
Voilà. Ouais, il a vraiment un super profil. Et puis l'autre joueur dont on parle beaucoup aussi, c'est Scottie Barnes à Toronto. Pourquoi? Parce que Toronto, on va dire, est un peu dans le creux de la vague. C'est fini l'époque du titre de 2019 avec Kyler, Kawhi Leonard, etc. On va dire le dernier survivant de cette époque, c'est Pascal Siakam qui a failli partir cet été. Et je pense qu'il partira sûrement dans l'année, ou si c'est pas cette année, ce sera peut-être l'année prochaine. Et Scottie Barnes, globalement, on lui a donné les clés du camion. Hein. On lui a dit maintenant, t'es notre meilleur joueur, t'es celui qui aura le plus de shoot, tu joueras peut-être même certains moments en tant que meneur de jeu, alors que c'est un ailier. Hein. Je rappelle, c'est plutôt un poste 3-4. Donc, il a tout pour. Pareil, superbe physique, un joueur qui a été quasiment dans les meilleurs rookies de sa première saison, qui a eu un peu plus de mal ces dernières saisons. Mais là, en fait, en gros, on lui dit, c'est ton année. Donc là, c'est vraiment une année charnière pour sa carrière. Soit il réalise un petit peu les attentes qu'il y a autour de lui et on va commencer à se dire ok, le gars est sérieux, ou alors ça marche pas et puis ça deviendra un joueur un petit peu à la Wiggins, c'est-à-dire un très bon joueur mais qui sera pas une star d'une équipe quoi, qui sera peut-être une troisième ou une deuxième ou une option d'une bonne équipe. Mais deux joueurs que j'attends impatiemment de voir parce que on attend pas mal de choses de cette année quoi.
Ok, nickel, te suis aussi, franchement c'est facile avec toi. C'est pas dire. Bon, on arrive à la fin de la rubrique en fait déjà parce que c'est la fin du podcast avec questions. Mais je voudrais te poser juste une petite question. Essaye d'être le plus concis possible.
Ok.
Tu te focuses pour revenir à Sorare ou SO5. Tu focuses quelle équipe d'abord? Comme t'as pas de gros MVP, on va dire ça comme ça. C'est d'abord la rare contender que tu vises.
Alors si je suis en rare, ça sera obligatoirement la rare contender et ensuite je pense la rare underdog par rapport à mon roster. Je pense que la rare champion au vu de mon roster, ce sera comme j'ai dit assez compliqué, donc vraiment je mettrai une équipe pour, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une belle surprise, hein. Surtout en NBA il y a des fois des choses assez folles, donc tout à fait possible de, même avec une line-up un petit peu médiocre, de réussir à gagner un reward dans l'année, mais ce sera pas ma priorité. Par contre en limited je pense que j'ai un vrai j'ai quand même une belle équipe, je veux dire j'ai quand même du Davis, du Kawhi Leonard, du Donovan Mitchell, etc. Donc je pense que je pourrais vraiment aligner une belle équipe en champion, et après j'irai sur la contender puisque le pool de reward en underdog sera assez faible. Et on a aussi parlé, parce que ça c'est Sorare l'a annoncé, que normalement il y aurait une compétition tournante chaque semaine, vous savez c'était ces fameuses compétitions qui apparaissaient de temps en temps, la U23, la Underdog, la S, la West, etc. Donc là la Underdog sera là toute l'année, mais il y aura en plus une nouvelle compétition, et peut-être que selon la situation, j'irai peut-être de temps en temps, plutôt que de mettre une équipe en Underdog, je pense que le pool de reward sera similaire avec la compétition tournante, et peut-être plutôt aller sur la U23 ou sur la conférence Est ou Ouest selon mon roster. Je pense que ce sera jouable. Voilà, on va essayer de voir si on arrive à gratter des rewards. Je pense que ce sera un peu plus simple en limited, où tu peux quasiment gagner jusqu'à, je crois, les 1000 premiers en contender peuvent quand même avoir une reward. Donc comme il n'y a pas non plus une arrivée massive de joueurs, je pense qu'en début de saison ce sera quand même assez jouable d'aller gagner des rewards en limited. Par contre en rare ça va être, et en super rare encore plus, ça va être complexe, je pense.
Ça va être la guerre.
Ouais.
Ok, et quels sont les éléments que tu tiens compte quand tu fais ta line-up? Est-ce que tu regarde le nombre de matchs que va jouer le joueur? Est-ce que tu vas regarder le match-up, c'est-à-dire l'adversaire? Voilà, quels sont les critères rapidement que tu...
Alors, je pense que la priorité des priorités, c'est quand même le nombre de matchs. Parce qu'on a quand même remarqué que la saison passée, quand vous avez un joueur même, on va dire, un petit peu moyen, qui a 3 matchs contre un joueur moyen plus qui a 1 match, bien souvent, il y a trop de possibilités que sur ces 3 matchs, il soit capable de faire un truc vraiment sympa. Donc, je pense qu'il faut quand même souvent prioriser le nombre de matchs. Par contre, si vous avez deux joueurs qui ont le même nombre de matchs, il va falloir prioriser en effet les match-ups, c'est-à-dire souvent, bien souvent. Alors moi, je priorise toujours les match-ups contre des équipes faibles, bon ça c'est la base, hein. Surtout contre des défenses faibles, parce que c'est ouais. ça qui est intéressant. Donc cette année, je pense que les deux défenses les plus faibles dans la saison, alors ce sera peut-être pas le cas en début de saison, mais ce sera Washington et Portland, qui sont deux équipes, à mon avis, immondes défensivement. En tout cas, il y a du potentiel sur certains joueurs, mais défensivement, ça va être très compliqué. Donc je pense que ça peut régaler pour certaines stars face à ces équipes-là. Et moi, j'ai un truc un peu particulier, c'est que j'aime bien aussi un peu ce qu'on appelle les revenge games ou les gros matchs à la télé. En gros, par exemple, quand un joueur rencontre son ancienne franchise ou qu'il a eu des déclarations contre une équipe, j'aime bien le mettre. Par exemple, l'année dernière, j'avais annoncé à tout le monde que Donovan Mitchell, pour son retour à Utah, ferait un énorme match et que c'était une carte à avoir absolument pour cette game week-là parce qu'il allait faire un score absolument monstrueux. Il a fait 52 points. Voilà, enfin 52 points tout court, hein, pas rare, hein, 52 points, je crois, un truc comme ça. Donc il a fait un match dantesque. Voilà, donc c'est le genre de petits trucs qu'il y a en NBA où il y a des joueurs qui sont motivés face à des équipes, etc. Ça, je les note. Un petit fichier où ouais. je me note tiens, tel joueur, il a dit que contre eux, il serait bien motivé, ou il a été tradé, il a mal vécu le trade, donc il va être un peu motivé. Et puis il y a aussi les matchs à la télé. Donc faut savoir qu'aux États-Unis, donc le jeudi soir, il y a ce qu'on appelle les grosses affiches sur ESPN. Donc il y a un double header, c'est-à-dire qu'il y a un match à 1h du matin et un autre à 4h. Et c'est des matchs qui sont diffusés donc à la télé américaine, accessibles pour beaucoup de gens, etc. Et donc c'est des grosses affiches, et souvent les joueurs font des gros matchs sur ces grosses affiches, en fait. Déjà aussi parce que il y a beaucoup de monde qui les regarde, parce que souvent les matchs ouais. sont serrés, donc le joueur joue beaucoup plus longtemps. Parce que ce qui est bien aussi, c'est que on dit souvent c'est mieux de prioriser face à des petites équipes, mais quand vous gagnez de 30 points au milieu du troisième quart-temps, bah votre joueur il aura joué que 25 minutes. Donc des fois il peut perfer, mais il joue peu. Donc j'aime bien aussi ce genre de choses. Et après, ce qui est aussi intéressant, c'est aussi de temps en temps de regarder un petit peu les projections. Donc moi l'année dernière, j'utilisais pas mal Sourar Data qui avait les projections grâce à RotoWire. Mais cette année, ça permettra de basculer peut-être sur le sujet. J'utilise aussi pas mal Sourar NBA Jet qui a développé son propre algorithme pour regarder un petit peu les projections, pour voir, parce que des fois ça m'arrive aussi peut-être de louper certains éléments, tel joueur va jouer un peu plus, etc. Et donc on peut le voir en se disant, tiens, il a un L10 de 15 et en fait sa projection elle est à 22. Pourquoi? Ah bah oui, parce qu'il va jouer beaucoup plus de minutes. Tiens, ça peut être intéressant de le mettre dans une line-up. Donc très intéressant d'utiliser ces outils, hein, que ce soit Sourar Data ou SoJet. C'est vraiment des outils extrêmement importants, surtout quand vous débutez et que vous n'avez pas encore toute la maîtrise du microcosme NBA. C'est vraiment une aide très solide pour faire vos line-up, hein. Donc utilisez-les.
Et explique donc Sourar NBA Jet, qu'est-ce que c'est et en quoi c'est utile, et qu'est-ce qu'il différencie par rapport à Sourar Data?
Alors déjà, c'est un outil qui a été développé par Poète, hein, c'est son surnom sur Discord, un gars très sympathique qui est parti du constat que finalement ce qu'il y avait sur Sourar Data était un petit peu succinct, que ça manquait un petit peu d'éléments, etc., et qu'il y avait sûrement moyen de faire un peu mieux. Donc en gros, globalement, il a décidé de créer cet outil donc où vous pouvez retrouver votre roster, et surtout vous avez aussi ce qu'on appelle un lineup builder. Donc vous pouvez tout simplement composer vos équipes, vous voyez on va dire toutes les statistiques de vos joueurs, et vous essayez donc de faire votre équipe en restant dans ce fameux cap, et vous pouvez donc voir des projections. Vous avez aussi la possibilité de proposer des line-up à d'autres managers. Donc je suis pas mal harcelé de line-up de gens qui me disaient, pour ma première game week, qu'est-ce que t'en penses de cette line-up? Mais c'est quand même très très sympa de pouvoir faire ça. Et puis il y a une fonctionnalité qui a quand même changé radicalement les choses l'année dernière, qui est assez exceptionnelle, c'est le fameux auto-trainer. Je ne comprends même pas comment Sora n'a jamais pu développer ça. C'était pareil au foot, hein. Tu te rappelles à l'époque, pour faire ses équipes training, c'était la croix et la bannière. Et ben vous allez sur SoJet, vous allez sur auto-trainer une fois que vous avez fait vos équipes, hein, dans vos différentes compétitions, et toutes les cartes qui vous restent partent en training automatiquement. Voilà, vous avez rien d'autre à faire. Ça, c'est quand même exceptionnel par contre.
Ah oui, c'est magnifique.
C'est voilà. Non mais vraiment, genre c'est un clic et toutes tes équipes sont en training, et donc prendront des, je rappelle, le training, hein, c'est pour prendre des pourcentages pour que vos cartes s'améliorent pour le futur, et c'est important de le faire. Moi, j'aime pas faire le training. Donc quand j'ai pas de solution aussi simple que SoJet, je le faisais pas. Voilà, ça m'ennuie de faire mes équipes. Je sais que c'est problématique, mais comme je reste dans une politique d'achat-revente, comme je t'avais déjà expliqué, c'était pas très grave au final parce que mes cartes souvent étaient pas très longtemps dans ma galerie, mais là avec l'auto-trainer, au moins je peux les mettre à progresser, quoi. Donc ça, c'est vraiment cool. Et puis bah, y a pas mal d'outils, on peut voir analyser un petit peu sa galerie pour voir si elle est en progression en termes de voilà, en termes de prix. On peut comparer des joueurs. Et il y a aussi un outil qui est très 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 sympa. Moi, il y a deux points que j'aime bien, c'est la progression du L10. Donc en fait, en allant sur un joueur, vous pouvez savoir quel sera son futur L10. En gros, par exemple, pour le L10 de la Game Week 2, il est fait avant le début de la Game Week 1. Donc en gros, les scores que vous avez dans la Game Week 1 n'impacteront son L10 qu'au début de la Game Week 3, parce qu'il y a toujours un décalage. Okay. Et donc en fait, vous pouvez déjà anticiper en sachant, bah tiens, tel joueur, en fait, son L10, il va baisser à la prochaine Game Week. Il va, par exemple, il y a une grosse perf dans les 10 dernières qui va disparaître. Et genre, c'est un joueur qui est en moyenne à 20, il avait fait un 50, et d'un coup, son L10, il passe à 12. Et là, ça va être super intéressant. Donc vous pouvez, par exemple, anticiper un achat avant que les joueurs se rendent compte qu'il est à 12. Donc ça, c'est cool. Et il y a un autre outil que j'aime beaucoup, c'est vous taper tout simplement le nom d'un joueur. Par exemple, voilà, je vais taper Jason Tatum, par exemple. Et quand vous allez sur la fiche du joueur, vous avez son L10 historique et vous pouvez voir tout simplement l'évolution de son L10. Donc vous pouvez voir, par exemple, qu'en début de saison, il avait une note de 45, que maintenant il est à 57. Donc on voit qu'il est beaucoup moins intéressant de l'utiliser là actuellement parce que son L10 est au plus haut qu'il a jamais été dans l'année, en fait. Donc ce graphe-là peut vous permettre de vous dire, ah oui, ok, d'accord, moi, parce qu'en fait, ce qu'il faut chercher, c'est des joueurs qui actuellement ont L10 bas et qui sous-perfent et qui pourront exploser leur L10 tout simplement, hein. C'est ça qu'on cherche, hein. Globalement, faut avoir, je dirais, selon les compétitions, mais en champion, l'idée c'est d'avoir entre 10 et 15 points minimum de surperf par joueur, quoi, pour essayer d'aller haut, quoi. Donc si vous avez un joueur à 20, faut espérer qu'il fasse au moins 35 points sans rare dans votre game week pour que ce soit vraiment vous ayez une vraie chance de reward, surtout cette année.
Ok, et donc c'est comme un plugin, en fait.
Alors c'est même pas un plugin, c'est directement un site, hein. Tu peux aller sur SoJet. Ce qui est marrant, c'est que tu peux installer l'application, enfin la petite extension sur Chrome ou sur Firefox, et quand tu vas sur Sorar, et ça c'est quand même très très bien, et ben quand on te propose un trade, t'as un petit truc qui est marqué en dessous où on te dit, tiens, le joueur vaut tant, et ce qu'on t'envoie en face, ça vaut tant. T'as même plus besoin d'aller sur la comparaison sur le site internet et tout. On te dit, tiens, on veut t'acheter ton Jason Tatum qui vaut tant, et on t'envoie trois cartes qui valent tant. Est-ce que ça t'intéresse? Ah bah tiens, ouais. T'as même pas besoin d'aller voir le floor price de chaque joueur et tout. Donc c'est magnifique. Et avec l'extension aussi, normalement, alors à vérifier sur le début de saison, mais c'était le cas l'année dernière, dès qu'il y a un joueur, par exemple, qui est out, c'est annoncé, vous avez une petite pop-up, et dès qu'il y a donc son remplaçant, par exemple, son L10 va, enfin sa projection, excuse-moi, de L10 monte, par exemple il était projeté à 15 et puis d'un coup le joueur est absent et il va avoir une projection à 25, bah, vous avez une petite pop-up qui vous dit projection plus 10 points. Voilà, donc instantanément vous savez quels joueurs sont intéressants à acheter parce que tel joueur est absent. C'est très très fort. C'est vraiment ce qu'il a développé, c'est excellent, et c'est un outil gratuit pour le moment, même si ça lui coûte voilà pas mal, mais il le fait vraiment pour la communauté, et moi je vous encourage à le soutenir. En plus voilà, il y a la possibilité, comme il dit, de lui offrir un petit café. Voilà, et voilà, non mais c'est libre, mais surtout faites-lui de la pub, allez sur son outil, utilisez-le, n'hésitez pas à publier. Il a fait un truc aussi très cool pour le début de saison, c'est qu'on va avoir la possibilité de partager ses line-up et aussi ses line-up gagnantes et ses rewards directement sur Twitter. Donc voilà, faut vraiment pas hésiter. Je pense que l'outil a tout pour être bien meilleur que Sorar Data, qui fait des efforts, mais à mon avis, j'ai pas l'impression que la NBA soit non plus leur priorité des priorités. Ils ont mis beaucoup le paquet sur le foot, et je sais pas si... je pense que cette année, SoJet, à mon avis, a plus de potentiel que Sorar Data pour faire vos équipes. Ce sera, à mon avis, un outil un peu plus intéressant, je pense.
Ah ouais, carrément.
Ouais, je pense. Ouais. Après, le petit disclaimer, c'est ce que j'ai dit, c'est que pour le moment, il n'a pas, comment dire, l'accès donc RotoWire, qui est un gros site qui fait des projections de minutes. En gros, il dit tel joueur va jouer 30 minutes, tel joueur va jouer 22 minutes, etc. Et ça, il n'y a pas accès. Donc, il fait son algorithme par lui-même. Donc, bien entendu, à prendre avec des pincettes, à comparer avec Sorar Data, etc. Mais on espère que ça va évoluer dans le bon sens. On a fait le nécessaire auprès de Sorar pour les alerter et leur dire que ce serait bien qu'ils fassent le nécessaire pour essayer de donner un petit coup de pouce à cet outil. Et on espère que ce sera le cas.
Ok, génial. Bah, t'as fait une super promo de ce problème. Moi, je vais aller, maintenant que j'ai des cartes, du coup, je vais regarder dessus parce que j'ai l'abonnement Sorar Data, mais Sorar NBA Jet, j'ai jamais utilisé. Donc je vais un peu m'amuser avec ça. Bah, écoute, merci pour, tu voulais encore ajouter quelque chose par rapport
non,
à Sorar NBA Jet?
Non, je pense qu'il y a tellement de choses à voir, mais si vous avez.
Et il est tout seul derrière, en plus.
Ouais, il est vraiment tout seul.
C'est fort.
Pour le coup, il est vraiment tout seul et il travaille à côté, hein, donc il fait ça sur son temps libre. Donc, les nuits sont courtes, comme il dit.
Ouais, Je veux bien le croire. Bon, Bobby, on va attaquer la toute dernière partie parce que c'est vrai que l'heure tourne. La dernière partie des questions-réponses rapides. Tu es prêt?
Mm-hmm. Ouais.
Alors, ton joueur préféré dans la vie réelle est sur Sorare et pourquoi?
Alors, mon joueur préféré actuellement, on va dire, c'est Kawhi Leonard. Pour plein de raisons, c'est un joueur que j'adorais à l'époque des Spurs. En gros, c'est un cyborg. C'est un mec, oui. Il arrive sur le terrain, il est... Non, mais il est incroyable. Pourtant, j'aime les joueurs fantasques, mais je sais pas, il dégage quelque chose d'assez exceptionnel. Je le trouve toujours aussi fort. Blessure après blessure, il revient, il est toujours fort. Voilà, il est assez incroyable. Et puis, j'ai un amour particulier pour ce run qu'il a fait avec Toronto qui a permis de gagner le titre. C'est pour moi un des plus beaux titres de ces 20 dernières années. C'était exceptionnel, c'était totalement inattendu. Il est arrivé, ils ont tenté le coup de poker et puis il a gagné le titre pour eux, pour une franchise canadienne en plus. Donc, c'est incroyable. Et donc, voilà, ce qui fait que Kawhi, c'est vraiment mon joueur préféré depuis des années. Mais il y a la nouvelle génération qui arrive et vraiment un joueur, comme j'en ai parlé, que j'adore incroyablement, c'est chez Gigus Alexander qui a été exceptionnel cet été et qui pour moi est vraiment le futur de la NBA et c'est un joueur tellement beau à voir jouer, tellement smooth, je sais pas s'il y a vraiment d'autres termes en français, mais vous savez, tellement délicat, tellement
fluide.
Ouais. Voilà, c'est ça, et donc c'est magnifique à voir. Mais ce qui m'a amené à la NBA, moi, c'est Tracy McGrady. Voilà, tout simplement, je suis un fan absolu de Tracy McGrady. J'avais des posters partout, j'ai tous ses maillots, j'ai été fan absolu. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai été fan absolu surtout de sa période à Orlando, qui est pourtant à mon avis pas sa meilleure période, mais voilà, le Tracy McGrady d'Orlando, c'est celui qui m'a mis des paillettes dans les yeux. Voilà, avec Kobe Bryant, vraiment, ça a été mes deux joueurs préférés, un peu dans le même style finalement, des arrières athlétiques.
À l'époque le duel, le duel pour savoir qui était le meilleur de la NBA, c'était McGrady et Kobe Bryant, et qui allait être le meilleur marqueur de la saison régulière, c'était lui ou Kobe, quoi. Ouais.
C'est ça, mais c'est des joueurs qui étaient vraiment magnifiques à voir. Et pour les nouvelles générations, je vous encourage, bon, Kobe c'est bien entendu extrêmement connu, mais pour ceux qui on va dire commencent à regarder la NBA, n'hésitez pas à regarder quelques highlights de Tracy McGrady, vous risquez d'en prendre plein les yeux quand même.
je valide parfaitement, totalement, mais bon, tu peux t'en douter un peu. Moi je trouve qu'il avait pas été valorisé, c'est un pléonasme, mais considéré à sa juste valeur. Pourtant, à titre personnel, ses plus belles années, c'est Orlando.
Ouais.
À titre collectif, oui, c'était après Houston, etc. Voilà, mais c'était exceptionnel. Moi, comme je suis un peu plus vieux, moi, ma référence, c'est Penny Hardaway, qui avait le même numéro, le même poste. Enfin, pas le même poste, mais voilà, des gars qui savaient absolument tout faire. Ok, super. Question suivante. Ton plus beau résultat.
J'ai regardé, parce que je me rappelais même pas de mon plus beau résultat. C'est ça qui est fou. Donc, j'ai regardé. Non, j'ai fait une 16e place en underdog l'année dernière. C'est vrai que j'aimais bien l'underdog quand elle y était, donc c'est vrai que c'est une compétition que je pense que je vais quand même essayer de viser de temps en temps. Et j'avais réussi à récupérer un magnifique Donovan Mitchell en plus juste avant les playoffs, donc j'étais super content. C'était en limited et en rare, j'avais eu l'occasion de récupérer un Spencer Dinwiddie avec belle valorisation quand même à l'époque à 0.1, donc j'étais quand même assez content d'avoir récupéré ça avec ma galerie qui actuellement vaut 2 ETH et j'ai un ETH de côté pour des achats, donc c'est pas mal. J'avais quand même réussi à récupérer une belle carte, mais comme je te l'ai déjà dit, comme j'ai souvent on va dire détruit des line-up un peu à la dernière seconde avec des ventes à 15 minutes du top chrono, clairement ça a impacté, mais j'ai regardé au final, je pense que ça m'a bien aidé parce que là, on va dire, quand je regarde en termes d'achat-revente sur la NBA, ce que ça donne au niveau des chiffres, je suis clairement gagnant, donc je suis quand même très content de ma stratégie à ce niveau-là.
Ok, bon, la plus belle récompense, t'en as parlé. Alors, ton plus gros coup de poids, si t'en as eu un?
Alors, au final, j'ai repensé, on en a parlé hier avec mon collègue Goudron avec qui on fait des lives sur Twitch, et il m'a reparlé d'un truc, et c'est vrai que j'avais fait une belle perf, je crois que j'avais été dans le top 50 ou top 60 sur une game week, et j'avais eu une, je crois que c'était une T2 ou une T3, donc j'étais super content, je l'avais ouvert en live et j'étais tombé sur Gary Payton 2 qui en fait était très cher parce qu'il y avait très peu de cartes émises à ce moment-là, donc il était à Portland, hein, il venait juste de signer, et comme il avait été blessé quasiment dès le début de saison, il y avait très très peu de cartes, donc en fait j'avais réussi à avoir cette carte-là. Pourquoi? Parce qu'il venait juste de réémettre des nouvelles cartes parce qu'il revenait de blessure. Bon, bien entendu, sa valorisation a diminué de 75% en l'espace de 5 jours dès qu'ils ont envoyé les 27 limited dès le début. Donc la pire T2 ou T3 de l'histoire pour moi, c'était c'était clairement un vrai fail. Donc par rapport à ça, et ouais, je l'ai mis un petit peu, j'en avais parlé, mais pour ceux qui, moi je joue à pas mal de jeux fantasy, donc à la Yahoo Fantasy, et l'année dernière j'avais fait un trade où j'avais récupéré Kate Cunningham, je le récupère le soir même, et le lendemain J'apprends que sa saison est terminée. Donc ça, c'est moi et mon flair habituel sur les fantaisies. Donc ouais, ça fait mal.
Ouais, effectivement. Bon bah là, tu pourras bientôt le réutiliser en force même.
Ouais.
Si tu l'as toujours.
Ouais, non, mais je le réutiliserai clairement.
Bon, tes joueurs à suivre. Bon, je présume il y a évidemment Victor. T'en as.
Ouais, j'en avais parlé. Victor Wembanyama, donc bien entendu à suivre. Mais il y avait un autre joueur dont j'ai beaucoup parlé l'année dernière, j'ai hypé beaucoup de gens là-dessus. C'était Walker Kessler, qui est en gros le joueur qui a été récupéré dans le trade de Gobert et qui est arrivé à Utah. Pour faire simple, c'est un futur meilleur défenseur de l'année. C'est un joueur, c'est une tige. Voilà, c'est une tige avec des bras gigantesques. Je crois qu'il a pas besoin de se baisser pour gratter les genoux. Mais ce qui est assez fort, c'est que c'est un joueur quand même qui est assez mobile. Et voilà, globalement sur Sorar, c'est absolument incroyable puisque l'année dernière, il a fait des matchs à 7 contre, 8 contre, 9 contre. Quand on voit combien de points rapportent les contre, c'est un joueur voilà à avoir. C'est le futur. Tout le monde dit que ce sera le meilleur défenseur de la NBA. Il était avec Team USA quand même cet été, donc c'est déjà un gage de valeur. Et c'est un joueur que moi c'était vraiment ma trouvaille. J'avais pas trop suivi la NCAA l'année précédente et quand je l'ai vu arriver et que j'ai découvert qui c'était, j'ai fait ah ouais d'accord, le gars est vraiment sérieux. Et moi je vous encourage, si vous avez pas un Walker Kessler, prenez-en un. Voilà, ce sera ma phrase.
Et ben, tu sais quoi, tu m'as rappelé, parce que moi quand je jouais au NBA, j'avais Kessler, je l'ai pris même assez vite. J'avais vu des highlights et j'avais vu ses contres et tout. Je me dis lui il a vraiment quelque chose de spécial. Et là tu me rappelles que je vais le reprendre. Voilà, tout simplement parce que je l'ai pas repris. Mais je vais le reprendre. Non,
et
c'est
en plus,
vrai.
Joueur à énorme variance, donc exactement parfait pour le gameplay de Sora.
Ok. Alors, la dernière question, Bobby, si tu avais Nicolas Julia devant toi, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire ? On t'a déjà un peu parlé avant.
Ouais.
Voilà, complète.
En gros, on va revenir un petit peu là-dessus, mais c'était. Faut vraiment qu'ils améliorent leur communication. Sora, à ce niveau-là, par exemple, quand il lance les cartes, il les lance, mais finalement, il n'y a même pas de tweet, pas d'annonce. On apprend ça plusieurs heures après, donc si tu vas pas sur le site de Sorar, finalement t'es pas au courant qu'il y a déjà des enchères en cours, etc. Donc ne serait-ce que ça, et puis il y a plein de. J'ai du mal à comprendre comment on peut finalement annoncer un gameplay et des choses comme ça à peine finalement 7 jours avant. Il faut vraiment qu'ils soient plus à l'écoute de la communauté, alors ils le sont peut-être, mais en tout cas qu'ils répondent plus rapidement à la communauté, qui donne des retours pour que les gens en fait soient pas tout simplement dans l'inconnu. Ça donne entre guillemets des fois l'impression qu'ils sont un petit peu un petit peu perdus ou qu'ils savent pas exactement où ils vont, et c'est un peu dommage parce que peut-être qu'en fait ils savent où ils vont, mais comme ils en parlent pas, on est un peu on est un peu perdus nous aussi de notre côté quoi. Ouais. Moi je dirais aussi peut-être d'aider un projet comme Sojet, qui permet à toute la communauté d'améliorer sa compréhension du jeu, sa manière de jouer, etc. Je pense que Sorar est un jeu communautaire, justement, et ce qui fait la force de Sorar, c'est que c'est par les joueurs, pour les joueurs, et il faut encourager toutes les initiatives qui permettent, en fait, de développer Sorar. Donc, un outil comme ça, qui fait de la publicité à Sorar, il faut lui donner les moyens d'exister, donc je pense que c'est important aussi de donner un petit coup de pouce. Je sais pas ce que t'en penses,
toi. Ouais, tout à fait, et ça rejoint un peu ce que m'avait dit Thor, qu'Asgard aussi, les derniers invités, en disant qu'aussi les créateurs de contenu, ça serait bien aussi parce qu'ils vont dans le sens de Sorar, ils font du contenu, ils attirent de nouveaux utilisateurs, ils sont sur plein de plateformes différentes et c'est vrai qu'ils ressentent un peu qu'ils sont laissés un peu de côté alors que clairement sont des alliés de Sorar dans l'onboarding massif, en tout cas vers l'objectif que s'est fixé Sorar. Ouais. Donc et Sojet, clairement, ça c'est encore un outil qui va aider en plus les managers, mais de manière plus concrète que des avis, ou bien comme ici au podcast tu donnes ton avis, etc. c'est utile, mais c'est vrai que là quand t'as vraiment un outil en plus qui te permet de construire ton roster et tes line-up, c'est encore un step supplémentaire, j'ai envie de dire. Ok, et vas-y, dis-moi.
Ouais, et puis finalement, j'allais dire, comme j'en avais parlé, mais je pense qu'il faut qu'ils accélèrent un petit peu sur le développement du projet et qu'ils tentent des choses. Je pense qu'il y a beaucoup de gens parce qu'en NBA, il y a, on va dire, à peu près 500 joueurs, donc beaucoup de joueurs ont des pools de cartes, on va dire, assez grands, en tout cas pour ceux qui suivent vraiment la NBA, et finalement, avoir 3 voire 4 compétitions, c'est pas beaucoup quand on compare, par exemple, au foot et toutes les compétitions qu'on peut avoir. Il y a tellement de possibilités, je me dis, sur la NBA, de pouvoir utiliser quasiment toutes ces cartes et peut-être de récompenser aussi les gens différents. apparemment, en tout cas, j'ai pas vu de SoCoin prévu pour le moment dans les gains. Je sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, je les ai pas vus. Peut-être, voilà, une meilleure distribution du cash. On en a parlé. En gros, celui qui gagne, qui fait un top 1, il gagne et plein de cash et une superbe carte. Est-ce que ce serait pas mieux finalement de redistribuer ce cash sur les gens qui vont pas gagner de cartes pour avoir finalement un petit peu d'argent pour tout le monde et faire grandir la communauté? Parce que finalement, même si vous gagnez que 2€, mais 2€, vous pouvez vous acheter une carte limited pour améliorer votre roster pour la prochaine line-up. Donc je pense qu'il y a vraiment pas mal de choses à mettre en place, et on va espérer que cette saison 2 elle soit quand même à la hauteur des attentes. Pour le moment, on attend de voir, mais on espère tous.
Ouais, bah écoute, c'est une belle conclusion. J'avais encore des questions sur Twitter d'abonnés, mais t'as répondu à toutes les questions. Par exemple, Lyotazi demandait comment tu vois l'avenir du gameplay de l'NBA. Es-tu hypé par les changements apportés en ce début de saison par Sora, Rewards, Marketing, Ambassadeur? T'en as un peu parlé, je pense ouais. qu'on a discuté de tout ça. C'est et il y avait Tonton Bas, comment est-ce que tu vois l'avenir des cartes de la saison 1? On va finir par ça.
Ouais, en fait, globalement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu inquiets parce que, bien entendu, comme on n'a pas pu mettre donc les équipes en training et donc améliorer l'XP de nos cartes durant l'été, on part avec un désavantage avec les cartes 1 par rapport à ceux qui vont acheter des cartes de la saison 2 qui vont, je vais prendre pour les limited, qui vont démarrer à 5%. Il n'y a quasiment aucune carte de la saison 1 qui va atteindre ces 5%. Il y en a quelques-unes, mais c'est rare, c'est plutôt entre 3 et 4%. Donc on part avec un petit désavantage. Mais sur le long terme, je pense que, par exemple, si vous conservez vos cartes de la saison 1, vous allez pouvoir donc les faire progresser toute l'année et vous ne perdrez plus jamais ces 5%. Donc par exemple, l'année prochaine, si vous avez une carte à 4% et que vous la faites monter à 7 ou 8%, vous allez avoir un avantage sur toutes les cartes de la saison 2 qui vont perdre ces 5% et aussi sur les nouvelles cartes de la saison 3. Donc c'était exactement la même chose qu'il y avait eu sur le foot en fait, quand les limited étaient sortis. La première année, il y avait eu un désavantage pour ceux qui avaient les anciennes cartes limited, et puis au fur et à mesure, on se rend compte que les vieilles cartes limited ou les vieilles cartes rares même, on se vendent beaucoup plus cher parce qu'elles ont beaucoup plus d'XP et qu'on se rend compte que l'XP est de plus en plus important. Le Sorare, ouais. C'est un jeu de patience, donc si vous êtes patient, normalement vous serez gagnant. Voilà.
Ah bah écoute, c'est une magnifique conclusion. Bobby, je te remercie pour toutes ces informations, ça a été vraiment un plaisir et c'était très fluide, t'étais vraiment à l'aise parce que tu me disais que t'étais un peu stressé, mais franchement, c'est vraiment passé crème, c'était super intéressant et j'ai hâte de te suivre et de suivre tes récaps après, je vais pas dire chaque soirée NBA parce que ça va être compliqué, il faut que tu tiennes, même si t'es un oiseau de nuit, il faut de temps en temps quand même récupérer, mais voilà, on aura certainement encore des contacts durant la saison, merci à toi.
Avec grand plaisir et merci encore pour l'invitation, c'était très cool.
Encore merci à Bobby et à vous pour avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, on vous remercie de le partager autour de vous et de mettre 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez pour écouter notre podcast. Et si vous avez des remarques, des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à nous les communiquer. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, comme toujours, des excellentes Game Week, des jolis rewards. C'était Magic Mehdi de Mediasorare.com.
Mediasorare. Le premier podcast francophone dédié à Sorare.